Prends les moteurs. Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? Le caméflex. Vous êtes complètement tapé ou quoi?
Bonsoir à tous.
Non, il y a plus de bugs.
Il y a pas de bugs.
Plus de bugs cette saison 2, plus de bugs.
Bonsoir et bienvenue dans Caméflex,
votre émission ciné hebdomadaire qui revient à partir d'aujourd'hui.
C'est ça.
Sur Twitch et sur YouTube.
Tous les jeudis à 19h30, cette saison 2, elle va être légendaire, comme on dit, sur les réseaux sociaux.
C'est une nouvelle formule pour Caméflex.
Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle formule. Et donc, nouvelle formule, dit nouvelle formule. J'avais pas de... Je ne savais pas. Et donc, on va avoir l'occasion d'avoir, à partir de cette première, des chroniqueurs qui seront avec nous.
Exactement.
Chaque émission. Donc, il y aura des roulements. Il y aura plein de chroniqueurs différents qui viendront nous raconter des histoires autour du cinéma, leurs chroniques, leurs enquêtes.
Des reviews, des analyses de films. Bref, plein de sujets autour du cinéma qui on en est sûr, vont vous passionner. Et là, oui. Ce soir... Pour ces chroniques, on est accompagné de deux chroniqueurs
qu'on aime beaucoup.
Tout d'abord, on est accompagné de Quentin Le Clap.
Bonsoir.
C'est pas la première fois que tu
Bonjour,
viens ici.
Quentin. Non, je suis très content de revenir. Merci encore de m'avoir proposé de.
Après, on commence à voir un peu trop ton visage.
Oui. Non, mais je.
On rappelle quand même que Quentin, t'as été le champion des losers.
Oui.
Sur le final de la saison.
Je suis très fier d'avoir ce statut dans l'émission, champion des losers. Ça, c'est vraiment une énorme fierté.
Ouais, bah je comprends. C'est-à-dire que t'as été celui qui, avant le live, m'a dit je vais finir finaliste.
Non, mais aussi le
voire premier, et qui au final se retrouver à tellement tout perdre qu'il a été le dernier des derniers.
Honnêtement, si on est honnête, il est juste tombé sur le mauvais jeu au mauvais moment.
Bah
parce
attends,
que...
le premier tour contre Brigitte, vrai, le mauvais jeu vrai. En plus, il joue
contre
dans les
Brigitte,
films.
Contre Brigitte, elle a répondu à une question.
Bah ouais,
elle a dit, bah oui, je sais, j'ai joué dans le film sur lequel la question porte.
Et comment tu voulais que je gagne, quoi.
Si vous voyez pas de quoi on parle, sur YouTube, vous pouvez retrouver la finale de la saison 1 où
exactement.
C'était un tournoi des jeux. Mais Quentin n'est pas seul, car... on reçoit Ophélie qui est avec nous ce soir.
Ophélie, tu es streameuse.
Oui, exactement.
Et donc ce soir, tu nous as prévu une petite chronique sur un sujet qui t'est cher, qui te plaît.
Ouais. Pour l'instant, je dirais.
Et tu pratiques le cinéma, donc tu es là pour nous parler de cinéma.
Exactement.
Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent marseillais,
mais. Je te suis dans tes accents.
Donc voilà, en tout cas, on va faire cette première partie d'émission avec vous, et puis il y aura aussi des petites actus qu'on a appelées actus en rapidos, où on va se passer la balle.
Mais avoir une petite partie fiction, et bien sûr, en deuxième partie d'émission, on sera accompagné de Julie, qui tient la chaîne YouTube Bacabou, et avec qui on parlera de cinéma, et on fera des petits jeux.
Je me suis marré ce soir pour les jeux.
Oui,
je préviens tout de suite.
Ils ont l'air très très bien. J'ai pas tout vu, mais
ils ont l'air très cons surtout. Bref, je vous propose tout de suite de passer aux chroniques du jour. Et pour ça, Nicolas, tu vas ouvrir le bal et tu vas nous parler d'un film qui est cher à ton cœur et d'une enquête particulière.
Si,
est cher à ton cœur. Tu vas nous parler de Teen Wolf.
Exactement. Alors, comment un zgeg s'est retrouvé dans un film tout public?
On a le droit de dire Zgegos sur Twitch.
On ne pourra dire ce qu'on veut.
Oui, ou Bitoon.
En fait, ça me surprend pas, ce... J'ai pourquoi Teen Wolf? Et maintenant, je comprends.
En plus, le Zgeg est dans une scène super importante du film, mais il n'y a aucun membre de l'équipe du film qui l'avait remarqué lors du tournage et même lors du montage du film.
Ouais, j'ai failli faire la vanasse sur le membre et puis je dis, oh, peut-être trop lourd, mais tu oses là où moi je m'interromps.
Ouais, j'assume. Moi, je suis là pour assumer.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est peut-être mon anecdote cinéma préférée, sûrement parce que je suis un peu teubé immature, je ne sais pas.
Oui.
Mais alors, pourquoi il y a un zgeg qui apparaît dans un film? À qui appartient ce zgeg? Vous allez voir toute cette histoire maintenant.
Spoiler, c'est le mien.
Vous allez voir que c'est très intéressant, premier degré. Donc en fait, le film dont je vais vous parler s'appelle Teen Wolf. C'est un film avec un acteur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Michael J. Fox, et qu'on connaît évidemment pour Retour vers le futur.
Ah, c'est lui.
J'imagine que je suis pas le seul à bien aimer Michael J. Fox. Hein, on a tous, j'imagine, une petite affection pour ce gars, non?
Comment ne pas l'aimer?
Oui.
Oui, en
non,
vrai,
tout le monde s'en fout.
Non, mais vraiment, on commence pas l'aimer.
Bah, évidemment, il a bercé.
Il est trop cool.
Et ce qui est fou, c'est que ça continue de bercer encore des générations aujourd'hui, Retour vers le futur et Michael J. Fox.
Ouais, totalement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Teen Wolf d'ailleurs?
Bah un petit peu ouais.
Ok.
Bah moi je connais la série moderne, mais je connais pas le film.
Alors justement, toi aussi c'est tu pensais à la série moderne ou tu connais le film original?
Je connais le film, j'ai jamais vu, ouais. Mais je connais le film parce que vu que j'ai bossé sur le nouveau film.
Ok.
Forcément j'ai un peu fouillé et j'ai eu cette anecdote de ce film, mais pas cette anecdote là.
Ah tu connais pas l'histoire du film?
Ça je connais pas.
D'accord. Et tant mieux. La série, on va y revenir juste après, mais d'abord, je voudrais vous présenter un petit peu le film de 1985, Teen Wolf, qui est un film qui est devenu assez culte avec le temps, mais aujourd'hui, évidemment, la série MTV est plus connue que le film des années 80. Bref, c'est un film qui raconte comment un adolescent qui est joué par Michael J. Fox découvre qu'il est en fait un loup-garou et ce super pouvoir va lui permettre de devenir super populaire dans son lycée.
N'essayez pas de comprendre.
Grâce notamment aux capacités surhumaine qui va recevoir et il va pouvoir gagner tous les matchs de basket de son lycée. Bref, ça a un peu aucun sens. Il devient super populaire quand il se transforme en loup-garou. Donc la morale de toute cette histoire, c'est que l'important, c'est de rester soi-même et de pas changer qui on est pour les autres. Bref, c'est hyper classique, c'est très simpliste. Le film a été écrit par des scénaristes super débutants qui venaient de sortir d'école de cinéma. Donc il s'agit de Matthew Weisman et Joseph Loeb.
Que vous connaissez.
Évidemment, ils sont restés dans l'histoire.
Ah, oui, non. Des bons potes.
Joseph Loeb, rien à voir avec...
Michel Leeb.
Non, j'en ai fan. Non, mais meilleure blague. Je valide.
Donc, ils ont été approchés par une boîte de prod qui s'appelle Atlantic Releasing. Atlantic, en gros, ils leur ont dit il faut que vous nous écriviez un film qui va nous coûter moins $1 million à produire. Ce qui s'était passé, c'est que précédemment, Atlantic, ils avaient produit Valley Girl avec Nicolas Cage, qui était aussi un film fauché et qui avait rapporté des millions et des millions de dollars au box-office. Donc, ils voulaient réitérer l'expérience. Et les scénaristes, ils proposent donc cette idée d'ado qui se transforme en loup-garou. Et le film est validé. Le tournage démarre moins de 3 mois après. Vraiment, ça se fait très très rapidement. Et d'ailleurs, le tournage a lieu pile au moment de l'explosion de popularité de Michael J. Fox. Il devient une star à ce moment-là.
Mais surtout, le film est sorti la même année que Retour vers le futur, non?
Et on va y revenir. Ouais. Effectivement. Alors, c'est le réalisateur du film, c'est un illustre inconnu qui s'appelle Rod Daniel. C'était son premier film. Et par la suite, il a réalisé Maman, j'ai raté l'avion 4.
Le meilleur.
Et 4, il y en a eu 4. Il y en a eu 5 ou 4?
5.
5.
Il y en a eu 5.
Ah oui, il y a eu le remake. Il y a eu le remake sur Disney Plus, ouais.
Et il a aussi fait Beethoven 2, donc c'est clairement un génie, ce mec, hein.
Non, mais c'est le meilleur aussi, Beethoven 2. il réussit là où le Beethoven 1 se foire à chaque fois.
Ça donne quoi, Teen Wolf? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est bien, Teen Wolf? Franchement, on va pas se mentir, c'est pas terrible, Teen Wolf.
Moi, j'ai eu la chance de le voir.
Ouais, voilà. En fait, moi, je l'ai revu très récemment. On l'a revu
il y a 3 jours. Et moi, je savais que ça existait. Mais je l'avais pas vu. Bof.
Merci pour cette review.
C'est tout.
Je vais à l'essentiel, bof.
Pour rentrer un peu plus en détail, la mise en scène, elle est vraiment fonctionnelle. C'est un peu du téléfilm, quoi. C'est pas terrible. L'histoire, elle est super prévisible. On s'ennuie pas mal pendant le film.
Et oh oui.
En dehors du jeu de Michael J. Fox, y a pas grand chose à sauver.
Michael J. Fox.
Michael J. Fox.
Ouais, mais même lui est pas exceptionnel non plus.
Non, mais
ça va, sauf qu'il y a beaucoup de fois où en fait il est avec ses prothèses et son costume dont on a vu les images tout à l'heure. Et c'est kitschouille.
Pas super réussi. Quand 2 ans avant il y a le Loup-garou de Londres qui sort au cinéma.
Tu sens d'ailleurs qu'ils ont voulu refaire des effets à la Loup-garou de Londres.
Ouais, ils ont vraiment voulu refaire la même chose.
Ça va, moche. Ça va pas.
Voilà. On a exactement les images.
Ça fait plus pour moi Yeti ou que mes.
Ça fait Loup-garou du campus.
Ouais.
Mais pour un film fauché, faut pas non plus.
C'était bien Loup-garou du campus.
Je vois même pas ce que c'est.
C'était le truc sur Gulli.
Sur Gulli, ouais, la série où justement. Putain, même
c'est ça dont je te parlais.
Mais c'est
exactement la
même
chose.
C'est trop bien le Loup-garou du campus.
C'était naze.
Arrête. Mais c'était trop bien. Nostalgiquement, c'était trop bien.
On en reparlera hors antenne.
Tu nous fais une chronique la semaine prochaine sur le.
C'est non. Ça mérite pas quand même une chronique, mais c'était trop bien.
En fait, je voulais vous dire aussi que c'est clairement un film qui a été fait pour plaire au public adolescent américain des années 80. La musique aussi est abominable, vraiment, c'est inaudible, c'est affreux.
Oh, putain, oui.
Mais moi, j'aime un peu bien Teen Wolf. En fait, c'est un peu comme, je le mets un peu dans le même panier que Karate Kid. C'est un film pas terrible des années 80 qui a été fait pour un public jeune, qui a été fait pour faire de la thune, qui est vraiment pas un grand film de l'histoire du cinéma, mais qui est sympatoche et on passe pas un mauvais moment dessus. Et en plus, il y a des répliques un peu nanardesques, moi, qui me font beaucoup rire, parce que le film a vraiment été écrit en deux temps trois mouvements. Ils ont pas réfléchi à leur, au dialogue et c'est un peu de la merde. Donc c'est agréable à regarder. Mais quand le film sort, c'est un succès phénoménal. Il fait 80 millions de dollars au box-office international pour en gros environ 4 millions de dollars engagés dans la production du film. Donc c'est vraiment un braquage. Et on va y revenir, hein, à la bite, vous inquiétez pas, mais
moi c'est ce qui commence à faut faire gaffe parce que moi ça commence à me manquer là la bite.
Ouais. On va revenir,
enfin, attention, pas dans la vie au... enfin bref, continue, je suis en train de m'enfoncer.
On va revenir à l'histoire. On va vraiment revenir à l'histoire du Zizi, mais donc voilà, ce succès gigantesque en 85, il est évidemment dû, comme tu disais, au succès de Retour vers le futur qui était sorti. En fait, c'est assez marrant parce que Teen Wolf a été tourné avant Retour vers le futur, vraiment durant la même année, mais avant, et ils ont décidé de le sortir un mois après pour surfer sur le succès. Ça a super bien marché.
Ah bah, ils sont pas cons, évidemment.
En vrai, ouais,
c'est
ouais,
très
ouais,
malin comme move marketing. Ils l'ont déplacé juste après la sortie de Retour vers le futur.
Il y avait peut-être aussi quelques galères au niveau de la production qui font que ça a été repoussé.
Non, ils ont fait exprès de le sortir un mois après. À la base, il devait sortir avant. Ils ont fait sortir.
Non, mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui posent des questions à la con.
Avec le temps, le film devient assez culte. Il y a une suite qui s'appelle Teen Wolf 2 avec Jason Bateman dans le rôle principal qui a fait un énorme flop parce qu'il n'y avait pas Michael J. Fox dedans. Il y a aussi une série d'animation dans les années 80 qui a l'air hideuse. On a peut-être des images en régie, mais la série a vraiment l'air dégueulasse. Et surtout, bah voilà, il y a eu la série live qui a commencé en 2009, qui a cartonné, qui a tout explosé.
Ah oui, c'est moche.
Pour vous la faire courte, en 2009, MTV commande pour vous la faire très courte, donc en 2009, MTV il commande une série d'animation qui est adaptée du film original de 85. Le showrunner Jeff Davis est aux commandes. Il va créer la série Teen Wolf qui sera très très éloignée du film original et qui sera plus en phase avec les trucs qui marchent chez les adolescents des années 2010, quoi.
Mais que de base c'était vraiment pas bien.
Bah, je sais pas. Est-ce que vous avez vu Teen Wolf, vous? C'était bien.
Non, moi j'ai pas.
Bah, c'est pas Vampire Diaries avec des loups-garous?
Si, voilà, ça a l'air d'avoir cette même
barrière. Ouais.
Ah, on parle de la série?
Oui, la nouvelle série là.
Non, j'ai pas voulu. Pour des raisons qui me semblent assez évidentes vu les images.
Pour le coup, tu vois, moi j'ai pas du tout grandi avec Teen Wolf, mais j'ai grandi avec Vampire Diaries, j'avoue. Okay. Donc je suis plutôt côté Vampire Diaries, mais Teen Wolf, il y a une énorme communauté française, ouais. Mais vraiment très 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 vénère.
Ils sont tout le temps invités au Paris Manga et à ces trucs-là, les acteurs.
Les acteurs viennent tout le temps, hein. Franchement, ouais. Ils viennent et ça fait des années que c'est fini. C'est fini en 2013, je crois.
Il y a des gros acteurs en plus dans la série. Ils ont commencé à vraiment percer grâce à la série. Ouais.
J'ai grandi avec Boogie Knight et.
J'ai jamais vu Dirk Diggler dans un festoche.
C'est pas le même délire,
vraiment pas. Mais je vous propose qu'on revienne à notre histoire de Zizi.
Ah.
Alors, lors de la dernière scène de Teen Wolf, qu'on voit actuellement à l'écran si la régie est très réactive, Michael J. Fox, il remporte son match de basket, il est acclamé par la foule, il se dirige vers son père et sa copine, et je vous jure qu'on va l'avoir en régie à un moment.
Coup de pression.
Comble, Quentin.
Voilà, on a cette scène-là, voilà, Michael J. Fox, il fait un gros câlin à son papa, un gros câlin à sa copine, freeze frame, générique, ok? On a cette scène-là.
Je l'ai vue.
Est-ce que vous avez entendu quelque chose de bizarre? Je l'ai vue. Maintenant, en régie, est-ce qu'on pourrait avoir la version ralentie et zoomée de cette scène, s'il vous plaît?
Car c'est important.
Zoom en E4, ouais, parfait, très bien.
Zoom en B22.
Parce que oui, si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un petit truc bizarre chez le figurant en haut à gauche de l'écran. Et oui, il est... c'est un peu caché là à l'image, mais oui, il est bel et bien en train de refermer sa braguette. Et on dirait qu'il a son matos à l'air, hein, clairement. C'est
quoi?
Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je veux savoir le contexte. À quel moment et pourquoi c'est du bon, tiens, je vais sortir ma zigounette, quoi. Enfin, c'est
une très bonne question.
Et surtout que les figurants, généralement, ils sont un petit peu dirigés, pas forcément par le réel, mais par troisième assistant réalisateur qui dit ouais, vous devez faire ça, faire ci, faire ça.
T'imagines
le mec, toi, il faudra que tu débraques ta braguette.
Non, mais les mecs, ils sont là, ils ont fini une moelle. De toute façon, on a foiré la plupart des trucs qu'on avait prévus. Mondi la bitoune.
Allez,
fais-toi plaisir.
Foutu pour foutu. Allez.
Ça fera du clic.
Non, mais oui, surtout que tu cries action au début d'une scène, c'est t'as le temps de te rhabiller s'il y a un problème.
Oh, putain. De mon point de vue, ça avait l'air d'être quand même désiré. Cette action là,
mais en fait, donc moi je trouve ça très très rigolo parce que je suis sûrement, comme je vous l'ai dit, assez immature. C'est une sacrée boulette et cette anecdote elle va devenir au fur et à mesure des années hyper populaire, hyper connue. L'extrait là que vous venez de voir, il a plus de 2 millions de vues sur YouTube.
Ah oui,
en fait, ça a commencé la popularité de ce truc a commencé grâce à un épisode de Family Guy qui, enfin c'est pas un épisode, c'est un téléfilm parodie de Star Wars. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais ils font référence à cette anecdote-là. Et à partir du moment où Family Guy a fait référence à la bitoune de Teen Wolf, il y a tout un engouement qui s'est créé autour de cette anecdote. Et moi, personnellement, c'est grâce à cette vanne là dans Family Guy que j'ai réussi à que j'ai découvert cette histoire pour la première fois. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont essayé de retrouver qui était ce figurant pour comprendre pourquoi il avait la braguette ouverte et son matos à l'air.
Et pourquoi pas.
Et donc, il y a des recherches qui ont eu lieu pour éclaircir le mystère. En 2011, il y a une émission de radio de K-Fan FM Radio qui va retrouver un figurant qu'on retrouve au générique de Teen Wolf qui s'appelle Chris Haggerty. Donc voilà, c'est cette radio-là. Et normalement, on a aussi un plan en régie du figurant au générique. La radio va contacter Chris Haggerty, ils vont contacter ce gars-là et ils vont le faire passer dans l'émission. Et Chris Haggerty, il nous explique que oui, c'est bien lui, le mec, à la fin de Teen Wolf, avec la braguette ouverte. Il explique qu'il faisait chaud sur le tournage et qu'il a déboutonné son pantalon. Et voilà, ça a fini dans le film. Truc de fou, il explique même que ça a détruit sa carrière à Hollywood et qu'il a été complètement blacklisté à cause de cet incident.
Tu m'étonnes, mais il a pas de caleçon, genre, juste, même?
Eh ben, il y a une suite, alors, en fait.
Pourquoi faire quand il fait chaud?
C'est assez incroyable, tout ça, sauf que... En fait, ça s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas du tout là. Vous savez quoi? Chris Haggerty, dont je vous parlais, qui est au générique de Teen Wolf, en fait, son vrai nom, c'est pas Chris. C'est Christina. Donc, le mec qui est passé dans la radio K-Fan FM pour dire, ouais, c'est moi qui ai montré ma bite dans Teen Wolf, c'est un énorme mytho, probablement, parce que Chris Haggerty est une femme. Chris Haggerty n'est pas un garçon. Donc bizarre, hein. Et la vraie Christina Haggerty a réagi à cette polémique, à ce truc. Elle a mis un commentaire sur une vidéo YouTube du fameux extrait de Teen Wolf en disant que c'est pas elle déjà qu'on voit avec la braguette baissée. Voilà le commentaire, vous le voyez à l'écran. Elle explique que c'est pas du tout elle qui a la braguette baissée dans Teen Wolf. Par contre, elle a une théorie sur pourquoi il y a quelqu'un qui a la braguette baissée dans Teen Wolf. Et surtout, sa vraie grosse théorie, excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux. Elle dit, c'est pas un mec, c'est une femme, les gars. C'est pas un mec qu'on voit qui ouvre sa braguette. C'est clairement une meuf. Et donc, elle écrit dans son commentaire, les filles portaient leurs pantalons très serrés à cette époque. Et donc, sur le tournage, on passait notre journée à attendre. Donc, j'imagine que l'actrice a dû déboutonner son pantalon entre les prises et elle a oublié de se rhabiller avant que la caméra ne se mette à filmer. Et effectivement, on est d'accord que cette version elle est quand même beaucoup plus probable en fait que juste il y a un mec qui sort sa tub sur le tournage.
Parce qu'il a chaud, c'est bizarre quoi.
C'est quand même très chelou.
Oh, c'est quand même moins drôle.
Gros blanc.
C'est quand même moins rigueux.
C'est vrai que c'est un peu moins drôle.
C'est moins rigolo quoi.
C'est beau quand tu parles. Toi.
J'aime toujours des petites interventions comme ça.
Ouais, c'est super.
Et on a plus de preuves qui avancent la théorie de. En fait, c'est pas un garçon.
On a des théories, on a des preuves, on a des trucs, mais rien que pour ça, moi, ça me
fait. Internet est formidable.
Pour un figurant qui monte sa bite, c'est quand même marrant, ouais. Donc en 2017, il y a un éditeur DVD qui s'appelle Scream Factory qui a édité Teen Wolf en Blu-ray. Voilà, c'est l'édition américaine de Teen Wolf qui m'a coûté 40 balles, je le précise.
Ça a coûté 40 balles.
Et donc cette édition sort en 2017 et pour cette restauration, l'équipe de production du Blu-ray a décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes sur cette théorie du zizi dans Teen Wolf. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rescanné le film. Alors, je sais pas si vous savez comment fonctionne un scan d'un négatif original, mais voilà, c'est juste, ils scannent pellicule par pellicule, frame par frame. Et en fait, le ratio d'image de la pellicule originale, il est pas en 16:9. Il était plutôt en 4 tiers et en fait, il a été croppé pour faire un cadre 16:9. Et donc normalement on a des images en régie, mais eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont scanné la pellicule full frame et donc on a des parties de l'image en plus qui n'ont jamais été découvertes. Et grâce à ces images, on peut voir que je sais pas si en régie vous avez la bonne je sais pas.
On a plus de
ça ressemble. Ouais, bon, il y a des tétés, hein, c'est une femme.
Normalement. En fait, ce qu'on peut voir dans leur nouveau scan full frame, c'est que effectivement, c'est une silhouette féminine qui est à l'écran, et surtout, on voit son visage, on voit sa coupe de cheveux, okay. Et on voit effectivement que c'est une femme à la fin de Teen Wolf. Voilà, le mystère est clos. Y a pas de zizi dans Teen Wolf. C'est bel et bien une femme qui a la braguette ouverte sur le plan final, mais un mystère subsiste. qui est cette femme en fait ? C'est qui cette meuf ? On n'a jamais eu la véritable identité de la figurante qui a ouvert sa brigade dans Teen Wolf, et pour l'instant, personne n'a jamais répondu à la question de qui est cette figurante. Mais vous savez que, je sais pas si vous connaissez ma chaîne YouTube, mais moi les figurants mystérieux non identifiés, c'est un petit peu ma cam. Donc pour ceux qui veulent, moi je vous propose un truc. C'est que je vais essayer de faire des recherches de mon côté pour voir si j'arrive pas à retrouver l'identité de la figurante de Teen Wolf. Et ce que je vous propose, c'est que vous vous abonniez à la chaîne YouTube de Caméflex.
Voilà.
Un coup marketing encore.
Et potentiellement, dans une prochaine chronique, j'essaierai de revenir et de débunker complètement l'histoire et de résoudre le mystère. Je vous garantis rien.
Putain, je sens qu'il va parler de Teen Wolf à chaque émission.
Non mais d'accord, mais par contre, je veux que la vidéo ait pour titre le mythe du Sgeg de Teen Wolf.
Mais moi, je suis chaud. Moi, ça me va très bien. Donc ouais, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Caméflex. Je vous garantis rien, mais j'espère finir par faire une chronique où je vais vous raconter la toute la vérité sur l'histoire du Zizi.
Parce que c'est important.
Parce que c'est important. Voilà, merci.
Merci Nicolas pour cette magnifique chronique et on l'applaudit, c'est important.
J'espère que ça vous a plu,
Ah, j'étais embarqué.
Mais je vous propose tout de suite de passer à la seconde chronique et ce sera la chronique d'Ophélie.
C'est moi-même.
Sur For All Mankind. Avec un. Fallait pas dire que c'était ça.
C'est pas grave. Non, c'est pas grave. T'inquiète.
Et en fait, plot twist, c'est pas ça du tout.
J'ai tout changé, vous êtes pas content.
Du Sgeggos dans Star Wars. Merde, putain.
Merci. Alors, avant qu'on reprenne ta chronique, je te laisse retrouver tes notes. Merci à François Delski qui s'est abonné. Merci à License to Stream. Vous êtes adorables. Merci à Thomas Combray. Merci à toutes les personnes qui ont lâché leur sub. C'est très gentil. Voici qu'on n'a pas d'argent, personnes... c'est encore plus gentil.
Voici toutes les personnes qui veulent voir le mystère du Sgeg.
Voilà, c'est ça.
On voit
ils
les intérêts,
sont
quoi.
Nombreux.
Pourquoi il y en a 350 d'un coup, là?
Pic d'audience.
C'est ça.
Ophélie, c'est ton moment. La France te regarde.
Très bien.
Let's go.
Eh bien, je vais commencer par vous poser une question. À votre avis, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une uchronie ?
Moi, je crois que je sais, mais j'ai peur de dire ça et de dire une bêtise.
On a révisé hier, donc je dirais pas.
Donc en gros, il y a que Tom, quoi. Okay.
Qui t'a passé pour le compte service ?
Allez, à ton tour.
C'est quand dans le futur ? C'est bien.
Bah non.
Non, c'est pas ça.
Non, attends,
c'est une utopie, ça.
Ah, alors une uchronie. C'est quand la temporalité, elle a été changée dans le passé et que si tu imagines un futur, si ça s'était passé dans le passé autrement.
Bien.
Pas mal.
C'est la définition
exacte.
Eh ben,
pas du tout.
Ça serait très stylé. Non, pour reprendre du coup mes notes et le terme vraiment littéraire. Donc, uchronie, un U pour ou, préfixe de négation, et chronos, le temps. Donc, étymologiquement, c'est chiant à dire comme mot, le mot désigne donc un non-temps ou un temps qui n'existe pas.
Ok.
Donc, partant de ce principe, la série For All Mankind est basée là-dessus. Donc, c'est une série Apple TV, dont 4 saisons sont sorties actuellement. Créée par Ronald D. Moore, qui a entre autres travaillé sur Star Trek, Battlestar Galactica, Outlander et plein d'autres séries.
Je crois qu'on dit Ronaldinho, mais c'est pas
le footballeur.
Avec Matt Wolpert et Ben Nedivi, qui sont les showrunners aussi de Fargo et de The Umbrella Academy.
Ah ouais, Fargo, c'est cool. Les gens qui ont des CV solides.
Pas mal, ouais.
Fargo, c'est cool. Regardez Fargo, c'est trop cool la série.
Ouais,
trop
je la regarde. À chaque fois, je vois le truc, je me dis, mais j'ai trop de choses à regarder.
Il y a trop de trucs à regarder.
Avec un acteur, entre autres, parce que je vais pas tous les citer, il y en a trop. Il y a Joanne Kinnaman qui a bossé sur Altered Carbon, Robocop 2014 et tu m'avais dit.
Suicide Squad
de 2016.
Et aussi le remake. Pas le remake, la pseudo-suite de James Gunn.
Donc lui, un CV moins solide.
Oui, mais en vrai, bon acteur. Okay. Franchement, bon acteur. Avec aussi Michael Dorman, Vren Schmidt, Chantel Van Chanten, d'autres acteurs que je connais un petit peu moins, et plein d'autres encore. Et donc le pitch de cette série, c'est que se passerait-il si l'Union soviétique arrivait sur la Lune avant les USA ? Et donc, de ce fait, n'arrêtant pas la course vers l'espace.
Ok.
Dans cette série, on peut retrouver quelques figures historiques, notamment Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, donc le trio qui sont Apollo 11 et qui sont historiquement allés sur la Lune. Ils sont joués par des acteurs. Il y a aussi des images d'archives pour d'autres figures historiques type John Fitzgerald Kennedy, forcément, ça va être compliqué. Nixon, Ronald Reagan, on voit Bush, on voit Bill Clinton et encore d'autres figures. C'est une série qui est pour l'instant prévue sur 7 saisons.
Okay.
Et donc sur 70 ans, parce qu'en fait, chaque saison avance de 10 ans. Donc tu vois toutes les évolutions et les changements du coup qui sont de plus en plus grands par rapport à notre linéarité et qui sont quand même faits pour être réalisables et logiques. Donc pour aller plus en détail, la série part du principe qu'en 1969, Alexei Leonov est un cosmonaute soviétique, devient le premier homme donc arrivé sur la Lune. Et l'URSS inclut aussi dans l'équipe qui est arrivée sur la Lune une femme.
Ok.
Ce qui fait donc deux tournants historiques en un. Le premier point de divergence qui est expliqué par Moore lors d'une interview, c'est que dans la série, Sergueï Korolev, qui est le père un peu du programme de conquête spatiale soviétique, n'est pas mort. Contrairement à dans la réalité, il est décédé en 66. Et en fait, sa mort dans notre réalité fait que tout le programme de conquête spatiale soviétique est totalement ralenti et toutes les essais après qu'ils vont faire ne vont jamais être concluants. Donc, ils perdent un peu la course et les USA arrivent en premier.
Okay.
Et donc, dans la série, il n'est pas mort. Et donc, il permet à l'URSS d'arriver en premier.
Mais du coup, il doit y avoir des effets spéciaux de malade.
Il y a énormément de VFX qui sont, à mon avis, de mon point de vue, très très clean. Ouais. Alors j'avais vu une vidéo qui
un breakdown.
D'un breakdown. J'ai oublié de l'ajouter. Je suis désolée. Okay.
Non, t'inquiète. Il est très fort en régie. Il va trouver tout seul.
Après, c'est une série Apple Plus et ils ont tellement de budget pour les séries. Ouais.
Et surtout, ils privilégient un truc de qualité. Apple TV, vraiment, ils veulent faire des gros trucs avec des gros acteurs, des gros noms, des belles photographies, etc. Et j'ai l'impression que ça s'inclut complètement là-dedans.
J'ai pas vu toute la série. J'ai vu les deux premiers épisodes. Et ouais, en termes de qualité, c'est assez fou. Franchement,
ça a de la gueule.
Franchement,
mais là, moi, ça me donne envie. Déjà,
le pitch est fou, trop bien.
Il est vraiment bien. Et c'est d'ailleurs une série qu'ils ont mis au lancement de la plateforme Apple TV+.
Ok.
Pour info. Et donc, partant de la Russie qui arrive en premier, Nixon réagit et pousse la NASA donc à créer un programme pour former des femmes astronautes. Donc, chose qui n'est jamais arrivée, bien sûr, dans la réalité. Et donc ça entraîne énormément de changements politiques et sociétaux qu'on va voir dérouler notamment sur la place de la femme dans la société et au quotidien.
Il y a des problèmes techniques qui sont en train de se régler en backstage.
Vous n'avez rien vu,
mais c'était formidable intervention.
Donc pour vous faire une petite liste d'exemples d'évolution qu'on voit dans la série et évolution technologique non, entre autres.
Attendez, on revient à nos esprits.
Ça va.
Non mais t'as pas vu. Mais en fait j'ai dû faire bouger le néonverteur qui s'est pété.
Ah non.
T'as tout fait tomber.
Il a cassé le décor.
Non.
Continue.
Ok. Finit.
donc les exemples
vraiment,
de
des conditions hyper agréables pour faire sa petite chronique tranquille.
Non mais tranquille. Moi j'aime bien. Mais bon, ça me déconcentre pas du tout.
Vous n'avez rien vu.
J'aime bien parce que ton costume est de la même couleur que le mur. Donc
oui, c'est pour. Ouais. Continue. Camouflage.
Donc, du coup,
des exemples.
Dès la première saison, on voit que l'URSS et les USA créent des bases directement sur la Lune. Donc, ce qui permet une progression technologique beaucoup beaucoup plus rapide que dans la réalité. Notamment, saison 4, très léger spoil que je vous dis, mais bon, on le voit dans toute la promo de la saison 4. Elle commence par une colonisation de Mars,
okay.
Qui se passe en 2003.
Ok.
En sachant que là, on est en 2024 et Mars.
Un peu en retard.
On est encore en discussion.
Ouais.
On va y arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, pour vous montrer vraiment les avancées très rapides qu'il y a. La fusion nucléaire arrive beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, ce qui permet notamment la création de voitures électriques et de Zoom dans les années 90.
De Zoom ?
Oui, tu sais, la plateforme de.
De visio ?
Ouais.
Ok.
Exactement.
Okay, okay, pas le Zoom okay. De photo.
Oui, non. Donc tu as vraiment genre ce genre de choses qui sont qu'on a nous dans notre quotidien, mais que eux ils ont dès les années 90. C'est une des plus grosses avancées d'ailleurs dans la série parce que ça permet, ça chamboule totalement l'industrie des énergies fossiles et ça ralentit d'ailleurs le dérèglement climatique.
Ok.
Donc pour vous dire vraiment toutes les changements que ça apporte. Il y a des réacteurs à propulsion nucléaire qui arrivent tôt. il y a des moteurs ioniques, des réacteurs à plasma. Bon, bref, voilà, c'est des trucs beaucoup plus scientifiques. J'ai fait L, hein, vraiment. Donc, je peux pas aller trop dans le détail non plus.
Après,
donc,
de ce que je comprends, c'est que la série montre que la course ne s'est jamais arrêtée, en fait.
Exactement.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est qu'ils ont toujours voulu montrer chacun des pays qu'ils étaient toujours au-dessus, ils essaient de rattraper l'autre.
C'est ça. Et en plus, après, ben, t'as les autres pays aussi qui arrivent. T'as la Chine qui arrive aussi au niveau de la Lune. Et après, bon, t'as la Corée, tu as. Plein d'autres choses, plein d'autres pays et donc plein d'autres adaptations qu'ils doivent avoir parce que bien sûr au moment du début de la série USA et URSS ils sont pas contents, ils sont pas copains et c'est au bord de la guerre froide ou en plein milieu de la guerre froide je crois et donc t'as toutes ces implications aussi que nous dans notre réalité bon il y a eu la guerre froide et si je ne m'abuse mais je veux pas trop dire de bêtises, mais je crois que justement la guerre froide a été évitée au dernier moment dans la série.
Okay.
Donc voilà, t'as plein d'autres petits changements comme ça. T'as aussi des collisions avec la réalité et la fiction, notamment avec l'expansion de l'industrie spatiale privée. Donc là, avec Musk et SpaceX, etc., et plein d'autres entreprises qui se sont lancées aux États-Unis. Et l'envie d'Elon Musk notamment de d'avoir une présence continue sur Mars, ce qui est pas très loin de ce qu'on voit dans la série.
Ok,
d'accord.
Bien sûr, pour la création de cette série, il faut de bons consultants parce que tu peux pas dire non plus n'importe quoi. Les écrivains ont beau être très très forts, les scénaristes sont très très forts. Je pense pas que ce soit des astronautes.
Et l'intérêt aussi, c'est d'avoir un côté crédible aussi.
Exactement.
Quand tu regardes ça, ouais.
Bah, en fait, c'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est que ça reste quand même très crédible dans le sens où, ok, ça part totalement dans un autre pan, on va dire, du temps. Pour autant, tu te dis pas à tout moment, ouais, non, mais ils sont allés trop loin, quoi. Tu te dis, ouais, en fait, c'est logique que ça tombe comme ça.
C'est progressif et justement, c'est ça permet de voir l'évolution progressive de
exactement,
ce truc, ouais.
Et donc, ils ont travaillé avec pas mal de consultants, notamment, j'ai lu une interview de Gareth Reisman. J'ai envoyé une petite photo avec trois astronautes, on va le voir, qui est un ancien astronaute de la NASA, ex-cadre pour SpaceX, et qui est aujourd'hui professeur d'université à l'université de Californie du Sud. Voilà, c'est celui qui est en haut à droite, le petit monsieur qui sourit. Donc c'est une photo à bord de l'ISS. Il a fait, je crois, deux ou trois voyages dans l'espace. Il a fait 95 jours dans l'espace. Au cours de ses missions, je crois qu'il a eu il est sorti trois fois de l'ISS, donc vraiment tout seul en combinaison dans l'espace. Et donc il est aussi donc conseiller technique pour For All Mankind. Et donc dans l'interview, il explique tous ses rôles et toute l'importance qu'il a eu toute sur l'écriture. Il explique aussi quelques avancées qui ont été faites, mais plus petites, mais qui sont tout aussi importantes, comme les interfaces humain-machine. Dans la série, très très vite, on voit des petits écrans tactiles qui sont sur les combinaisons. Et il dit, bah, à cette époque, nous, on n'avait pas ça. On n'avait que des papiers qu'on devait tourner pour pouvoir les lire. Et donc, c'était pas du tout pratique dans l'espace. Sauf peut-être si tu veux faire un morpion. Mais bon, je suis très certaine du truc, quoi. la série, comme il dit aussi, peut inspirer la réalité parce qu'on voit à un moment un hôtel en orbite. Et donc Gareth explique que quand il a vu comment il avait été créé, ça pourrait totalement inspirer des vrais créateurs, enfin des vrais ingénieurs, pardon, pour faire la même chose. Donc un petit hôtel en orbite autour de la Lune, ça peut être pas mal. Perso, moi, ça me fait peur l'espace.
ouais.
Mais je pense
ouais,
que
c'est flippant,
pas.
Ouais.
J'ai le vertige, ça va être compliqué.
Ouais, pas simple.
Ouais.
pas ouf.
Pas dingue.
C'est haut, quoi.
Ouais, c'est un petit peu haut. Et donc il est aussi, il a aussi été impliqué sur le plan émotionnel, notamment bah, en expliquant son vécu, des histoires qu'il a vues aussi, que ce soit sur sa carrière au sol, dans l'espace, à bord de l'ISS, à travers des histoires qu'il a entendues aussi sur d'autres astronautes, des personnalités différentes, des réactions différentes, ce qui permet vraiment d'étoffer en fait l'évolution des personnages. que je trouve aussi très très bien dans cette série, c'est que
ouais, c'est ça que je voulais te demander, c'est que c'est hyper intéressant, et évidemment tout le monde va être là pour le contexte et pour le settings et pour voir qu'est-ce qui se serait passé, mais du coup la série elle se concentre sur ses personnages quand même.
Exactement, en fait ce qui est bien c'est que t'as un peu un comparatif de tous les astronautes qui font des gros trucs, qui vont sur la Lune, qui vont très très loin, et aussi t'as leur famille, donc les femmes au foyer au début, ouais. Et en fait évolue et c'est comme ça aussi que tu vois l'évolution de la place des femmes notamment, et chaque personnage en fait évolue de son côté, ils survivent pas tous.
Ok.
Mais tu les retrouves quand même.
La plupart, tu les retrouves de saison en saison.
Ouais. Okay. Et en fait, ça, c'est aussi un truc que je trouve très chouette, c'est que c'est les mêmes acteurs du début à la fin, et donc ils ont des maquillages qui sont très bien faits. Alors les calvicies chez les hommes, je les trouve un peu moyens. Mais
alors, il suffit vraiment de se raser la tête. Quoi.
Ouais. Alors je pense que tu vois quand même la recoupe. Mais les maquillages de vieillissement restent quand même très logiques. Genre c'est pas un truc où en 10 ans, on t'a l'impression qu'il a pris 20.
Tu dis 20, toi.
Ouais, d'origine de l'Est. Ah. Et tout ce qui est maquillage aussi, qui est autre que les VFX, sont très très bien faits. Ils ont toute une réflexion aussi sur chaque époque à son style. Donc il faut que ça reste logique, autant au niveau, de la déco intérieure, des voitures, de tout ce qui est costume. Enfin, c'est vraiment, vraiment très poussé et t'as beaucoup de recherche derrière. Et donc ça reste collé quand même à la réalité. Et j'aimerais juste terminer sur une petite citation de Kinnaman que j'ai vue et que je trouve très très bien, où il dit, c'est une traduction, hein.
Ouais.
La série met en lumière de nombreux problèmes, mais elle donne aussi une vision ambitieuse, de ce qui aurait pu être si nous avions pris quelques décisions différemment et si nous avions regardé les choses d'une autre manière. Et moi je me demande quand je lis ça, est-ce que au final ce serait pas le plus important que de prendre du recul et d'essayer de voir les choses sous un autre angle?
Ok.
Ce sera bien.
Merci, ça donne très envie de mater la série.
Ouais, moi je regarderai ça dans la semaine.
C'est très cool. J'ai 4 saisons.
Ouais, il y a 4 saisons, 1 heure l'épisode.
Ok, peut-être pas dans la semaine, mais
après,
quand j'aurai du temps.
Je crois. Par saison.
Alors peut-être dans la semaine un peu plus tard.
Ça fait 10 heures très précisément.
Attends, moi j'applaudis. Moi j'applaudis.
Bravo. Quentin, c'est à toi maintenant.
Non, mais la sienne elle est moins bien.
Arrête!
Je rigole.
Maintenant!
Quentin, tu es là pour nous parler d'un monstre du cinéma.
Oui, hop, alors là, moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a abordé auparavant. Peut-être un petit peu avec Teen Wolf, parce que moi, j'aimerais aborder une des personnes qui a sans doute fait naître ma cinéphilie quand j'étais plus jeune. Et je profite d'ailleurs de la sortie du blockbuster de l'année, Godzilla X Kong. Je pense que c'est un film qu'on attendait tous.
Ça a l'air débile.
Non.
On en reparlera rapidement tout à l'heure.
Rapidement. Mais en fait, j'avais envie de parler de justement un des pionniers des effets spéciaux, une des personnes les plus connues dans le monde du cinéma. Je veux bien sûr parler de Ray Harryhausen.
Harryhausen.
Et justement, bonne référence, parce que pour ceux qui connaissent pas trop Ray Harryhausen, il y a peut-être deux moments particuliers où vous aurez pu le croiser dans Monstres et Compagnie. Bob Razowski invite Célia, je crois qu'elle s'appelle, dans un restaurant, et le restaurant s'appelle
Harryhausen.
Le Harryhausen.
Okay.
Il faut réserver 6 mois à l'avance là-bas.
Et c'est pas chier quand même.
Je connais par cœur le film en plus, ça c'est un de mes bijoux. Et donc justement, on peut le voir ici. Donc Harryhausen, c'est le restaurant donc dans Monstres et Compagnie, et aussi la deuxième œuvre, on a pu voir quelques images de ces films, c'est dans le générique de Malcolm.
Okay.
Où en fait, dans le générique de Malcolm, tu as de temps en temps quelques petites images de films. Donc, c'est des films de créatures, de monstres, où c'est fait en stop motion. Et donc, c'est justement ça, Ray Harryhausen, ce sont des monstres qui sont faits en stop motion. Donc, normalement, on va voir passer ça. Là, voilà. Là, on a vu, c'était très subtil. Donc, là, c'était le Kraken dans Le Choc des Titans en 1981. Donc, ça, je vais en parler un petit peu après. Mais voilà, Ray Harryhausen, c'est celui qui a... démocratiser les effets en stop motion, et donc j'aimerais revenir un petit peu sur son histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qui sont très cool.
Ouais, même au-delà de ces deux références là, il a influencé tellement de personnes.
Évidemment, là c'est vraiment là c'est pour ceux qui vraiment ne connaissent rien et ne savent pas du tout qui c'est. C'est je pense un des deux moments où on a pu voir ce que c'est, mais bien sûr, ça a influencé énormément de monde.
Tout le monde, tout le cinéma qu'on aime a été influencé par ce.
Et justement, je pourrais revenir là-dessus après. Donc déjà, Ray Harryhausen, qui c'est? Il est né en 1920, et en fait, ce qui est intéressant avec Ray Harryhausen, c'est que c'est quelqu'un qui a complètement éclipsé les réalisateurs sur les films sur lesquels il a travaillé. Justement, je parlais de Choc des Titans. Choc des Titans, c'est un film qui est sorti en 1981. Mais moi, je ne saurais pas te dire qui est le réel. Mais par contre, je sais que c'est Ray Harryhausen qui a bossé dessus.
Alors qu'il fait une chronique sur le sujet.
C'est vrai. J'aurais pu me...
Non, attends. Non, je suis là pour
non,
le...
Non, mais c'est vrai
c'est
que...
C'est Jeffrey Humbert.
Le nez dans la sauce.
C'est Jeffrey Humbert.
Ouais.
Non.
Non, mais c'est surtout pour dire qu'évidemment, mais en fait, c'est quand les gens parlent de Ray Harryhausen, tout le monde pense que c'est lui qui a réalisé les films, alors que pas du tout. Il a juste été producteur et concepteur et animateur d'effets spéciaux, mais il n'a jamais été réalisateur. Mais il a eu une influence mais majeure sur le cinéma. Et tout ça a commencé en 1933, parce qu'il y a un film qui est sorti en 1933, qui reprend justement ces effets spéciaux et qui est... Quel film en 1933? Je vous pose la question.
King Kong.
Ouais. King Kong revient justement au film qui est sorti juste hier. Justement, vous pouvez voir des images. Ah bah oui. Donc King Kong, en fait, donc, c'est des effets spéciaux qui sont faits en stop motion. Et vous allez voir que la différence entre ce film en 1933... Et ce qu'a fait Ray Harryhausen, c'est vraiment édifiant.
Ouais, il y a un gap de fou.
Mais en gros, ici, on peut voir que c'est un petit peu saccadé, et tandis que Ray Harryhausen, il va rendre ça de manière beaucoup plus fluide et beaucoup mieux implanté dans le décor.
Ouais.
Et donc ça, King Kong, ça a été réalisé en 1933, et celui qui a supervisé les effets spéciaux, c'est Willis O'Brien. Et en fait, il a eu la chance de pouvoir rencontrer cette personne. Donc en disant que, ouais, mec, King Kong, c'était trop cool, c'est trop bien. Alors, je suis pas sûr qu'il ait dit ça exactement, mais...
Vrunde, parce qu'il était suédois.
Il était suédois, ouais, c'est ça.
Vrunde Bruden, qui veut dire j'aime beaucoup ce film. C'est
tout à fait.
Visuellement, ça attire l'œil.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Pète sa mère.
Ça non, pète sa mère.
Plus sérieusement, King Kong, c'est vrai que moi, c'est un film que j'adore, le film de 1933, parce que quand tu le vois, tu te dis mais le cinéma a été fait pour ça, quoi. En fait, ça a été fait pour créer des images qui ne peuvent pas exister. C'est vraiment évident, tu vois. Sinon, si on devait filmer que des gens qui parlent dans des pièces, on ferait du théâtre. Mais là, c'est quelque chose qui peut pas exister sous une autre forme que cinématographique. Et quand j'ai vu ça, mes yeux, j'ai trouvé ça incroyable. En plus, le film parle de cinéma, vu que c'est l'histoire d'un réalisateur qui veut aller filmer le truc, etc. Je trouve ce film magique.
Et je trouve que moi, justement, tout ce qui est stop motion, donc j'en parlerai un petit peu plus précisément après, mais moi, je trouve que c'est un charme de fou et ça amplifie justement l'aura de ces films. Donc moi, j'ai pas vu King Kong à l'époque parce que j'avais vu plus la trilogie de Sinbad de Ray Harryhausen. Ouais. Mmh. C'est comme ça que j'ai connu le personnage. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc Ray rencontre Willis O'Brien. Il commence à parler un petit peu de ses travaux et Willis lui dit « Mec, t'as un peu de talent, donc va étudier le cinéma et va étudier un petit peu tout ce qui est anatomie pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les corps, les muscles, etc. » Donc il va étudier le cinéma et en 1940, il va faire son premier projet qui s'appelle Évolution, qui en fait reprend un petit peu l'évolution de la vie en commençant avec des dinosaures. Mais c'est un film qui n'a jamais pu finir. Alors maintenant, je vais vous poser la question de pourquoi. Pourquoi il n'a jamais pu finir le film?
37.
Alors,
37.
Réponse A. Parce qu'il n'avait plus assez de sous pour s'acheter de la pellicule.
Ok.
Réponse B, parce qu'au final, ça prenait trop de temps, donc ça l'a saoulé. Réponse C, parce que Willis O'Brien a vu le début du film et lui a dit « Mec, t'as pas un plan B ?»
Oh wow.
Et ensuite, réponse D, c'est pas ma faute, c'est la faute de Disney.
La C.
La C?
Ça fait mal, hein, si c'est la C, hein. C'est horrible.
Ça ferait mal si c'est la C quand même, hein.
Je sais pas. Alors, la D.
Pour moi, la D,
ouais.
La B est pas, et c'est pas ça.
Alors, ouais. La A.
Je sais pas.
La A.
Je peux pas dire, j'ai la réponse.
Ah, t'as la réponse.
Oui,
je dis rien.
Bah, non, évidemment, ouais. C'était un peu évident. C'est la faute à Disney. C'est toujours la faute de Disney. Pourquoi c'est la faute de Disney? Parce qu'en 1940, il y a eu quel film qui est sorti de Disney?
Pinocchio.
Non.
Blanche-Neige.
Non plus. Fantasia.
Ouais, vraiment, tu lui as coupé l'air sur pied, ouais. Avec la fou.
Pinocchio. C'est pas Pinocchio.
Si, c'est Pinocchio.
Ouais, en fait, Pinocchio, je crois que c'est sorti peut-être un an après, je crois, en 1941. Okay. Si. Mais en gros, Fantasia est sorti. Et en fait, dans Fantasia, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas Fantasia, donc en gros, c'est un film qui reprend des compositions musicales avec pas mal de sketchs. Il y a notamment le sketch avec Mickey qui est un magicien, l'apprenti magicien. Et on a aussi une scène avec le Sacre du Printemps, si je me souviens bien, où c'est un combat entre un tyrannosaure et un stégosaure.
Et Pinocchio.
Et Pinocchio qui arrive avec la baleine en train de surfer. Non, c'est pas mon film. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ray a vu ça, il s'est dit, en fait, j'ai fait la même chose, donc ça sert à rien que je continue, quoi. Donc en gros, il a abandonné le projet, mais il a pas abandonné le cinéma parce qu'il dit, c'est quand même trop cool. Il va à la guerre. Donc pendant quelques années, il interrompt un petit peu ses études et également son début de travail. Il va bosser sur une série pour enfants en 1947, mais c'est surtout en 1949 qu'il va faire son premier gros travail. Et justement, c'est Willis O'Brien qui l'a spécifiquement appelé pour le film, pour faire les effets spéciaux de la créature du film qui s'appelle Monsieur Joe.
Okay.
Et la créature, c'est un gorille.
Okay, ouais,
et donc justement, on a ce côté transmission où... Ray Harryhausen a vu King Kong.
Donc c'est ça, en fait, ça, c'est les images de
c'est les images de film, justement.
Ah ouais, putain,
c'est. Et là, justement, on voit la différence, c'est que, bah là, le monsieur, il a quasiment fait les effets que du gorille.
Non, mais même dans l'anatomie et tout, ça a plus rien à voir avec
c'est
King Kong.
En fait, moi, ce que je trouve fou dans toutes ces créatures, c'est les détails qu'il met sur ces petites, miniatures. Et là, ce qui est cool dans cette scène, c'est qu'on voit la transition dans un petit peu après, donc je sais pas si on aura le temps de le voir.
Même
mais juste
regard.
Après, on a la transition entre le lion qui est en prise de vue réelle, là, dans sa cage. Et à un moment donné, il y a Monsieur Joe qui va le prendre en main. Il va passer de stop motion à prise de vue réelle, mais en un claquement de seconde. Et c'est vraiment illusoire. Ouais. On voit pas le truc passer. Je crois que c'est juste après. Voilà, soyez patients. Vous pouvez meubler en attendant. Mais voilà, c'est sorti en 1949. Il y a eu un remake de ce film dans les années 90 avec Charlize Theron.
Ouais, c'est une comédie.
Oui, c'est un peu plus une comédie. Là, c'est un peu plus. On va voir ici.
C'est genre tu l'as regardé, ouais.
Non, j'ai vu des effets spéciaux, honnêtement, c'est un peu différent. Vous avez vu la transition
C'est trop cool.
Et
ça, attends, ça, tu dis ça de quelle année?
1949.
Ok, putain.
Par exemple, il y a des gens qui ont peut-être vu au collège ou quoi, où souvent était montré Jason les Argonautes ou des trucs comme ça.
Ah, ça, justement,
peut-être
ça,
vous
c'est
avez reconnu
un film culte.
Ray Harryhausen, effectivement, a fait ces trucs-là.
Et en gros, ce qui s'est passé, donc avant de faire Jason les Argonautes, qui est un de ses films les plus cultes.
Mais il y a The Last Geek Hero qui parlait du film avec Charlize Theron, là, justement.
Tout à fait, ouais. Et en gros, là, pour Monsieur Joe, c'était des effets en ordinateur. Alors, c'est vrai que ça a mal vieilli, mais c'est pas si moche pour l'époque.
Okay.
C'est pas si moche. Donc, pour revenir sur Ray Harryhausen, en 1953, il va faire un film, c'est La créature des profondeurs, je crois, où en fait, c'est un dragon qui va envahir une ville. Une sorte de dragon, de créature, voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va inventer sa technique d'animation qui s'appelle le dynamation, qui en fait permet d'incorporer les créatures dans le décor sans forcément toucher à tout, tu vois. En gros, ça va jouer en mode de masque. J'ai mis une vidéo en lien, j'essaierai de la mettre.
Mais c'est drôle, je trouve. Voilà, dynamation,
la vidéo
c'est vraiment
un petit peu.
C'est vraiment un mot d'époque. Tu sais, t'es obligé de dire dynamation.
Dynamation. Et en gros, pour vraiment vulgariser à fond, c'est que ça joue avec des masques. C'est-à-dire que ils vont filmer un plan. On va faire un premier masque. On aura les personnages réels qui feront leurs actions. Ensuite, on aura l'animation de la créature. Et ensuite, un autre plan, donc un autre masque. Où là on aura la profondeur de champ, ouais. Et en gros ça va créer justement la profondeur de champ et justement permettre de mettre les miniatures pour combiner à la fois le live action et le stop motion, exactement.
Pour qu'on ait un premier plan et que du coup ils s'incorporent.
Exactement.
Dans la scène,
et en fait ça permet de vraiment incorporer les créatures de manière hyper immersive et vraiment de manière très réaliste. Donc c'est à ce moment-là qu'il va vraiment être connu à Hollywood et ensuite il va enchaîner mais plein de films qui sont tout aussi bien les uns que les autres. Ouais. Et moi, parmi eux, il y a un de mes préférés ever, c'est le 7e voyage de Sinbad,
ouais.
Où là, il y a la créature, une des créatures les plus iconiques qu'il ait jamais créée, c'est le fameux Cyclope.
Ouais, le Cyclope.
Où là, justement, donc là, c'est Sinbad qui va sur une île et tout. Voilà, donc on a l'extrait. Ah, mais rien de voir l'extrait, moi, ça, j'adore. C'est franchement, mais je trouve ça une
vibe. T'as découvert ça dans l'enfance?
Hein?
T'as découvert ça dans l'enfance, du coup?
J'ai découvert ça plus jeune. Mais je pense que c'est un des films que j'ai le plus maté dans ma vie.
Ah ouais.
Mais vraiment, c'est vraiment.
Moi, j'avais Sinbad, mais le dessin animé avec Monica Bellucci.
Oui, il y avait. C'est pas Patrick Bruel qui faisait la voix de.
Sûrement,
non, peut-être. Non, c'était Patrick Fiori, je crois, qui faisait la voix de Sinbad.
Ça avait pas l'air terrible, ça.
Je kiffais, moi, gamin.
L'animation est exceptionnelle.
Ok, d'accord.
Vraiment, l'animation exceptionnelle. Le film est sympa sans plus, mais l'animation est exceptionnelle. Mais en tout cas, pour ces films-là, donc derrière, donc ça, c'était en 1957. Donc là, on a le fameux combat. Et ça, le cyclope, en fait, c'est une des créatures que j'ai le plus dessinées dans ma vie.
Ok.
C'est quand j'étais jeune, je commençais un petit peu à dessiner. Et en fait, le cyclope, je dessine tout le temps. Moi, c'est vraiment, j'ai un gros rapport avec ce film-là. C'est ça qui m'a fait aimer le cinéma. Et c'est vraiment, je vous conseille qu'un truc, c'est de voir ces films-là. Parce que c'est vraiment trop, trop chouette.
Et moi, j'ai vu, excuse-moi, je.
Vas-y,
j'ai vu dans une des vidéos, là, qui montre l'évolution un peu des films en stop motion. Et il y a un film, j'avais oublié que je l'avais vu autant.
Ouais.
C'est James et la pêche géante.
Ah oui.
C'est en 96.
Ah, j'ai vu
plein de fois aussi.
J'ai grandi avec ce film. Je l'avais oublié.
James,
ça me fait du plaisir de le revoir, là.
Et voilà. Justement, donc ça pourra partir sur les influences parce que derrière, donc il a enchaîné les films. Il y a eu Jason et les Argonautes avec la fameuse scène cultissime du combat avec les squelettes.
Ouais, ouais.
Et
moi, été parodié, reprise, un nombre incalculable de fois.
Et je crois qu'ils ont mis 4 mois à faire les effets spéciaux, justement, par rapport à cette séquence-là, mais c'est vraiment, mais incroyable.
Okay.
Il y a ensuite l'île mystérieuse. Il y a eu aussi, les suites de Jason. Et en fait, à partir de 77, donc déjà, les films commencent à rencontrer du succès, mais le problème, c'est que Ray Harryhausen s'est confronté aux effets spéciaux numériques. Donc en 77, il y a eu Sinbad et l'œil du tigre qui est sorti. Donc déjà, les effets spéciaux étaient quand même, Je sais pas si ça tournait un petit peu en rond, mais en tout cas, on sentait que la formule commençait peut-être un petit peu à s'affaiblir.
Elle était fatiguée, quoi.
C'est un peu ça. Et ensuite, en 77, il y a eu Star Wars. Mm. Star Wars qui est sorti le même été que Sinbad. Et en fait, Ray a vu ça et s'est dit, bon, bah là, on...
C'est la nouvelle génération, quoi.
Bah, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, en gros, on s'est dit que déjà, entre les animatroniques avec les Dents de la Mer, qui étaient sortis 2 ans avant, et en plus des effets spéciaux avec Star Wars, il s'est dit, bon, bah là, c'est un petit peu désuet ce qu'on fait.
Le Ray, il va aller prendre sa retraite.
Voilà. Le Ré-Ré va se reposer. Mais, en fait, mais le Ré-Ré, qu'est-ce qu'il s'est dit?
Il y a de la stop motion incroyable aussi dans Star Wars, dans les premiers Star Wars.
Et surtout que après la retraite de Ray Harryhausen qui, en 81, parce qu'en fait, ils ont voulu faire un dernier film, on fait le Choc des Titans.
Ok.
Choc des Titans, budget pharaonique pour l'époque, 16 millions de dollars. Ils ont jamais eu un aussi gros budget pour un film comme ça.
Ok.
Casting 5 étoiles. Et là, il y a tellement d'effets qui ont été faits par rapport à la stop motion. On a justement, il y a le fameux plan de la Gorgone dans le Choc du Titan, où en fait, ce qu'il a voulu faire avec le Dynamation, c'est incorporer des mouvements avec les créatures. Parce que généralement, on les voyait que sur des plans fixes. Et donc là, déjà, avec le Jason et les Argonautes, il y a un plan où on voit l'hydre au premier plan qui est en train de contourner Sinbad. Donc, Jason, pardon. Donc là, déjà, ça avait un petit plan. Et dans, comment ça s'appelle? Dans le Choc du Titan, tu as un sort de travelling compensé sur le visage de Médusa. Qui est un plan terrifiant, mais qui est excellemment bien fait. Et après, t'as tout le mouvement avec le Kraken qui est hyper imposant. Donc là, c'était son dernier film. C'était vraiment, en plus, ça a eu un gros succès. Il s'est dit, OK, maintenant on arrête parce que ça sert plus à rien. Le truc, c'est que, Ray Harryhausen a influencé énormément de monde dans la culture pop. Bah, déjà, par rapport au film de monstres, on a eu Guillermo del Toro qui a d'ailleurs dédié Pacific Rim à Ray Harryhausen. On a eu aussi plein de films derrière qui ont repris des effets de stop motion. Notamment, c'est ce qu'on avait vu à Gérard May, Robocop, où il y a pas mal d'effets de stop motion. On a ensuite le premier Terminator, où il remplace son œil. Ça, c'est un stop motion aussi. Et après, tu as eu les studios Artman, qui, grâce à eux, ont pu perpétrer le stop motion aussi dans les années 90 avec Wallace et Gromit. Mais également, on a eu L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Et ensuite, James la pêche géante. Et jusqu'à terminer en 2022 avec le Pinocchio de Guillermo del Toro. Ouais. On revient sur Pinocchio.
Et le studio
Pinocchio,
le studio de Laika, tout à l'heure on voyait aussi des images de Kubo et donc le studio de Laika qui est devenu une référence.
Tout
donc ouais. Mais moi c'est vrai que t'as trop raison. Au début tu disais que c'est que c'est, on connaît pas le nom des réals et on connaît que le nom de Ray Harryhausen, mais c'est tellement vrai et c'est trop rare quoi. Il y a pas d'autres artistes d'effets spéciaux qui donnent leur nom au film quoi.
Mais moi je vais te donner un autre exemple pour reprendre ce même truc, c'est que aujourd'hui on connaît les studios d'effets spéciaux.
Ouais.
On a Weta Digital avec Le Seigneur des Anneaux et Avatar.
Artman comme tu disais.
Artman aussi pour tout ce qui est stop motion. On a aussi ILM avec Star Wars. Ouais. Mais encore aujourd'hui, on n'a pas un nom qui ressort en disant que lui, ça met des effets spéciaux aujourd'hui.
Il y a des superstars des effets spéciaux, notamment dans Star Wars, t'as les Phil Tippett, etc., qui sont, tu vois, Phil Tippett qui fait aussi de la stop motion. Mais Phil Tippett, on n'a jamais dit, ouais, ça, c'est un film de Phil Tippett, même s'il est très reconnu et très, il a jamais été associé à un gros film qu'il a fait, dont il a fait.
Mais il y avait aussi le principe de grosse équipe aussi qui était derrière.
Ouais.
Qui à ce moment-là.
Mais malgré le fait qu'il y ait
sous une entité plus qu'un nom.
Malgré le fait qu'il y ait quand même eu des superstars des effets spéciaux par la suite, il y en a jamais un qui est autant ressorti.
Qui a eu autant d'aura que Ray Harryhausen et qui a autant marqué les gens. Et c'est ça que j'adore avec Ray Harryhausen, c'est que.
C'est qu'il a un prénom rigolo.
C'est qu'il a un prénom rigolo.
J'ai décidé de faire le teubé, moi, ce soir. Je vous préviens.
C'est ça.
Waouh.
T'as tendu le bâton.
Oui, c'est vrai. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, en tout cas, je trouve que la stop motion aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un charme de fou et qui a tendance à beaucoup moins mal vieillir que les effets spéciaux ordinateurs. Et quand je vois ces films-là qui sont sortis entre les années 50 et 80, mais je me dis, mais ça marche toujours autant. Alors, c'est sûr que si on y voit quelques détails, par exemple, dans L'île mystérieuse, on voit vraiment la différence quand c'est les plans filmés avec une caméra normale et les plans qui sont filmés pour incorporer les créatures dessus. Oui, parce que je précise créatures parce qu'ils voulaient pas mettre monstres comme pour éviter de les désincarner en fait.
Okay.
Parce que justement, ce qui est aussi fort avec Ray Harryhausen, c'est que à travers l'animation, à travers les bruitages et surtout aussi à travers la musique dans ses films, parce que quasiment dans tous les films de Ray Harryhausen, c'est Bernard Herrmann qui a fait la musique, donc celui qui a fait la composition de Citizen Kane.
Ouais, qui a beaucoup bossé avec Hitchcock aussi.
Ouais.
Et moi, je voudrais en parler dans une prochaine émission où justement l'utilisation des leitmotivs chez Herrmann qui est hyper intéressante et qui est quelque chose qui s'est un peu perdu, je trouve, le principe de leitmotiv.
Et là, quand tu vois tous les films, t'as vraiment, la patte musicale est hyper importante.
Ouais,
et
bien sûr. Il était très très fort pour
ça. C'est ça. Et moi, ce que je voulais conclure par rapport à ça, c'est que donc aujourd'hui,
Les effets spéciaux, on a tendance à beaucoup revenir dessus parce que voilà, chaque studio a sa façon de faire, sa façon de voir les effets spéciaux. Et quand j'ai voulu revoir un petit peu les derniers films qui sont sortis sur les dernières années, c'est vrai que à part Avatar, honnêtement, surtout Avatar 2, on va dire, pour parler d'un film récemment, j'ai pas vu un film où je me suis sorti du truc, je me suis dit, putain, c'est une claque visuelle, t'as un effet spéciaux.
Ouais, ouais. Non, et puis il y a aussi eu, avec le temps où la VFX a beaucoup évolué et est devenue très très large, et la majorité des...
Je vais juste t'interrompre. Wow. Ce qu'on voit à l'image, c'est la dernière production de Ray Harryhausen. Donc c'est le dernier truc qu'il a bossé, c'est dans les années 2000. Parce qu'il était consultant pour les effets stop motion, voilà. C'était juste.
Mais je crois que je l'ai vu passer ce truc-là il y a quelques années, justement.
Oh, pardon.
Pinocchio, du coup.
Ouais, tu disais Pinocchio. Mais
les j'ai plus ce que je disais. Oui, non, mais il y a un truc où limite les gens à un moment étaient plus friands d'effets pratiques parce que les VFX commencent à devenir aussi un peu plus dégueulasses, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des grèves pour avoir plus de temps pour les faire. Mais moi, je me souviens du cas Fury Road. Mad Max Fury Road, où un des arguments pour aller voir le film, qui était pas le principal, ouais, mais qui était un des arguments, encore, où il y a de l'effet pratique, il y a de la cascade.
Je suis d'accord.
C'est pas de,
je suis
c'est pas du
d'accord,
VFX.
Mais avec Fury Road, je sais pas si c'est le bon. Je pense que les, je sais pas.
Non,
si
mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, la VFX n'étant plus forcément un truc qui déplaçait.
Je me souviens de genre, on en faisait tout le studio, on faisait tout un pataquès marketing autour de Jurassic World parce que à un moment, il y avait une tête de dino qui était fait en
animatronique.
En animatronique, alors que tout le reste c'est de la CG. Arrêtez de foutre de notre gueule.
Mais tu vois, par exemple, pour revenir à ce que je disais par rapport aux effets pratiques, bah dernièrement, c'est Michael Keaton qui en parlait, disait que pour Beetlejuice 2, en fait, il voulait vraiment garder, il voulait garder un petit peu la patte du premier film qui avait d'ailleurs des séquences en stop motion, et en disant qu'il voulait un maximum privilégier les effets pratiques pour éviter de justement être trop désuet par rapport au temps, parce qu'effectivement, Beetlejuice, les effets spéciaux de Beetlejuice, il y a une patte parce que le stop motion permet de le faire durer un petit peu.
C'est l'époque où Burton arrivait à se démerder pour faire des trucs qui étaient un peu plus intemporels que ce qu'il peut faire aujourd'hui.
Mais moi, tu vois
où Alice au pays des merveilles.
Oh, mais ouais, pour le sur Beetlejuice 2, c'est une bonne idée en soi, mais faut voir la gueule du trailer et se dire ouais putain, ça ressemble vraiment à un téléfilm, donc je sais pas s'ils vont préserver l'essence de l'original.
Ouais. Et tu vois, pour conclure, pour vraiment conclure, le dernier Oscar des meilleurs effets visuels. Donc quel est le film qui a gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels?
C'est
Ray Harryhausen. Attends, non, je l'attends. C'est Pinocchio. C'est
Pinocchio.
Non.
Ah
putain. C'est pas Oppenheimer.
Non.
Je l'ai vu.
Ah mais justement, en fait, c'est un film.
Ah mais c'est Godzilla.
Godzilla.
Ah putain.
C'est Godzilla minus one. Alors, on va pas parler des conditions de travail parce que voilà, c'est.
Parce qu'ils sont japonais, ils sont fous avec ça.
Non, parce que voilà, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression. Et même encore aujourd'hui, même quand tu vois Godzilla X Kong, quand tu vois la bande-annonce, c'est vrai que les effets spéciaux sont quand même pas trop mal. Mais tu dis que moi j'ai l'impression que les plus grosses avancées en termes d'effets spéciaux, c'est avec des films de monstres.
Ouais. Bah
et
ouais,
donc
ouais.
Je pense que sans
c'est la nécessité en fait, on a une nécessité d'utiliser les effets spéciaux.
De
besoin
aussi de faire autre chose, tu vois. Et même si je sais que Fincher raffole des effets visuels invisibles, et c'est vrai que c'est bluffant quand tu vois les behind the scenes de Mindhunter, quand il rajoute des arbres et tout, enfin, c'est impressionnant.
C'est, me semble-t-il, Fincher qui disait, mais là je dis peut-être une connerie, mais je crois vraiment que c'en est pas une. Fincher qui disait, en fait, moi mes effets VFX et tout, je fais toujours en sorte que ce soit des trucs qu'on pourrait filmer, mais qu'on peut pas le faire. Mais faire
oui, c'est
truc.
Ça, ouais.
Non, mais tu vois,
il disait exactement
exemple,
ça comme ça.
Par exemple, effectivement, plutôt que de prendre un hélico et machin et d'avoir un plan qui, au final, se baladerait un peu trop ou serait un peu trop tremblant, comme on voit dans Zodiac, par exemple, cette fameuse scène où il y a le suivi de la voiture.
Ouais,
et machin,
incroyable
et
ce plan.
C'est-à-dire qu'il dit, la caméra pourrait le faire, je peux pas forcément, mais il faut que ce soit à échelle où on y croit.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de
réel, ouais.
De réel. Et c'est pour ça que lui, en tout cas, je crois que c'est pour ça. Et ce que je viens de dire est peut-être une énorme connerie.
Mais je crois pas. Mais ce serait pertinent, en tout cas. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que sans Ray Harryhausen, on n'aurait pas eu, déjà des films de fous furieux.
Ouais.
Mais surtout de se dire que les effets spéciaux seraient pas là aujourd'hui, à ce niveau-là pour certains films. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend une nouvelle avancée. Est-ce que l'IA va permettre de, je ne sais pas, je ne suis pas là pour en juger. Mais toujours est-il que Ray Harryhausen, c'est trop bien. Regardez les films sur lesquels il a participé parce que c'est incroyable.
Du coup, vous l'avez compris, on vous conseille Monstre et Compagnie.
Et Pinocchio.
Merci beaucoup, Quentin. Bon, j'applaudis.
Bah, merci, Quentin. C'était
je suis trop content. Les chroniques, elles étaient trop cool. Merci à vous trois. Je vous propose de passer à un truc qu'on va essayer.
qui sera très très bref.
Qui sera très très
ne
bref.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de.
Nico, est-ce que tu peux faire un truc pour moi?
Oui.
Est-ce que tu peux aller rallumer la cam, éteindre et rallumer la cam là-bas?
Avec grand plaisir.
Merci. Mais, mais si tu peux écouter en même temps, parce que ton avis va être utile. Alors, on va passer à un truc qu'on a appelé l'actu en rapidos. En bref, on va pas. Je vais vous parler d'une actu récente autour du cinéma et faut tenir moins de 2 minutes dessus. Donc en gros, c'est vraiment juste, je vous exprime le truc et c'est, j'en ai un pété ou pourquoi
pas
ou machin. Bref, c'est good, c'est bon Nico. Bon, Nicolas, tu peux revenir, c'est bon.
Bonjour, on meuble en attendant, bonjour.
Alors du coup, voilà, je vais vous parler des petites actus de la semaine et on va commencer par un truc qui moi m'a un peu titillé et que quand j'en ai parlé avec vous tout à l'heure, vous aviez jamais vu. Et aucun de vous ne connaît La Guerre des Roses ou ne l'a vu.
Pas vu.
Pas vu.
Très bien. Est-ce que vous savez quand même de quoi ça parle?
Pas du tout. Il y a des roses et c'est une guerre.
C'est les roses qui se battent entre eux.
Pas du tout.
Frêle.
La guerre des roses,
la
c'est
de la
un
guerre
film.
Des boutons.
Mmh. Ouais, c'est ce que je me dis.
C'est les suites non officielles.
C'est le spin-off de l'Union de la Rose.
Ouais, ça a duré très longtemps.
C'est un film. Le nom de la rose. c'est un film de Danny DeVito sorti en 89, qui est une comédie plutôt humour noir et tout, sur un couple qui se déchire et qui vont se faire les pires atrocités possibles parce qu'ils se supportent plus. Okay. C'est un film qui a très bien marché. C'était un film avec Michael Douglas et Kathleen Turner. C'était deux gros noms quand même.
Pas mal.
Le film a très bien marché. Et ça a eu son petit succès, quoi. Et avec le temps, c'est devenu un film culte. Mais on est à Hollywood. Et quand on parle de film culte et que ça fait déjà 35 ans que le film est passé, qu'est-ce qu'on se dit? On fait un petit remake! Et donc, ils vont normalement faire un remake avec Olivia Colman, qu'on a pu voir dans La Favorite, dans beaucoup de séries anglaises, qui est une super comédienne.
Ouais.
Fleabag, qui joue la mère dans Fleabag.
Et insupportable, incroyable.
Et le fabuleux Benedict Cumberbatch. Ils veulent faire un truc, donc cette fois-ci, on va pas prendre Danny DeVito, mais on va prendre Jay Roach qui avait fait Austin Powers, c'est Mon beau-père et moi. Ça pète un peu moins la classe.
Ouais, mais bon, pour le côté comédie avec Mon beau-père et moi, pourquoi pas.
Ouais.
Écrit avec ce sera écrit par Tony McNamara qui a écrit Pauvre créature et La Favorite justement.
Ah.
Faut savoir qu'il y avait un truc en 2013 d'une pseudo suite qui devait sortir de ce film-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressera, un énième remake
pourquoi
d'un
pas.
Film
mais... Enfin, moi, ce serait une découverte en vrai. Hein, parce que
ouais, bah je te conseille plus le film original pour l'instant qui est très.
Personne
bien.
Autour de cette table n'a vu l'original, donc.
Bah, j'avoue, moi, les deux ensemble, par rapport au pitch, pourquoi pas. Le casting
oui,
me
ça.
Plaît un peu, les voir interagir ensemble par rapport à ça peut être chouette.
Ouais, c'est pour ça, moi j'aime bien le cast.
Carrément, ça peut être très très marrant. Voilà notre avis en bref sur
c'est
ce
très
sujet.
Bien, c'est très bien. Et on va continuer sur Hollywood qui ne s'arrête pas parce qu'encore une fois, on a quelque chose qui marche, autant l'utiliser. Matrix 5 a été annoncé. Donc la saga qui a démarré en 99 par les sœurs Wachowski va avoir le droit à une énième suite. Cette fois-ci, aucune des sœurs Wachowski ne réalisera le film, même si elles seront en prod.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, prod exé.
Elles seront en prod, c'est ça, en prod exé. T'aimes bien dire exé, je le sais. Et donc, c'est Lana qui va être en prod. Et ce sera réalisé par Drew Goddard. Alors, il a scénarisé Seul sur Mars, World War Z et Cloverfield, et a réalisé La Cabane dans les bois et Saltan à l'hôtel El Royal.
Il a fait World War Z?
Ouais.
Il a scénarisé
World War Z.
World War Z, qui je crois est un livre assez sympa, mais qui est une très mauvaise adaptation.
Complètement détourné le prix de World War Z.
J'ai lu le livre beaucoup mieux que le film.
Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas si Keanu Reeves ou Carrie Anne Moss seront de la partie. Est-ce que une suite, ça vous intéresse ou on n'en peut plus?
Non.
J'ai envie de tuer Warner.
D'accord. J'aime bien ses avis très rapides.
Moi, j'ai adoré Matrix 4 et justement.
Attends. C'est ironique ou pas?
Ah, j'ai adoré Matrix 4.
Oh, merci! Ah, mais c'est une merveille, Matrix 4!
J'attends qu'un seul truc.
Dans
c'est de le remater en vrai, je l'ai acheté en 4K.
C'est incroyable, Matrix 4!
J'ai envie de le remater.
C'est incroyable!
Alors, vous entendez pas, mais il y a Julie qui est en train de péter un câble sur Matrix.
T'as pas de goût, toi!
Mais
ah
non,
que
moi
tu
j'ai
sais pas ce que
adoré.
C'est
vrai. Moi aussi je me suis emmerdé.
Moi j'ai adoré.
Mais les quatre sont monstrueux. Il y en a pas un en dessous de l'autre.
Alors, un film d'action et de baston et que tu sais pas filmer une scène de baston. Hein,
alors, d'accord. Oui, les scènes de baston dans les quatre sont pas folles.
Clairement, t'es dans l'abus en disant qu'il y en a pas un en dessous de l'autre. Le 2 et le 3, c'est quand même pas foufou.
Ah, le 1, hein. Surpasse tout. Mais
le 3, le combat Bollywood à la fin, moi j'en peux plus. Enfin bref.
Le 3, qu'est-ce qu'on s'emmerde.
Ah, moi les 4, je les adore.
Moi je suis très enfin, je suis pas du tout content parce que je pense que ça peut être vraiment de la merde. Après, c'est pas grave, ça n'effacera pas les anciens. Moi, je kiffe le 4. Et je sais plus ce que je voulais dire.
En fait, moi, je termine là-dessus. Je suis chaud
s'ils reprennent pas Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.
Ah non, ouais. C'est une très mauvaise idée.
En fait, il faudrait qu'ils fassent quelque chose de parallèle avant, j'en sais
non,
rien.
Non, mais si, mais continuez, Keanu, il est content. Enfin, bref.
Non, mais on vous met John Wick, c'est tout.
Ah oui, si je voulais juste parler des scènes
t'as
de base.
T'as pas bien compris, là, la vidéo, c'est fat.
Mais en même temps, t'as vu l'actualité?
Je voulais juste parler des scènes de baston dans le 4. Effectivement, elles sont pas terribles, mais c'est vrai que ça enfin, en fait, c'est, notamment sa transition. Lana Wachowski lui a permis une espèce de liberté dans sa vie et une liberté dans sa mise en scène, c'est ce qu'elle explique elle-même en interview. C'est beaucoup plus instinctif en fait, la Matrix 4, c'est filmé de manière beaucoup plus instinctive. Et donc moi j'aime bien ce côté instinctif, mais effectivement pour les scènes d'action, j'aime bien quand c'est hyper carré et que ça, et que ils savent exactement ce qui filme les cinéastes. Genre tu vois, j'adore les films de Jackie Chan, mais c'est parce que tout est hyper carré. Et là effectivement le fait qu'elle sache pas ce qu'elle va filmer, qu'elle filme un petit peu à la zob son ses scènes d'action, bah c'est un peu dommage, mais j'aime quand même beaucoup beaucoup le film.
Oh, d'accord, très bien.
On passe à la dernière actu. Godzilla versus Godzilla X Kong, parce que maintenant peut-être qu'ils sont copains, on sait pas. Fait un très bon démarrage aux States avec 80 millions de dollars. C'est le deuxième plus gros succès du Monsterverse, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé.
Monsterverse,
le premier étant Godzilla, et Godzilla qui a remporté, qui a fait le meilleur score avec 90 millions.
Skull Island,
93 millions, pardon.
Godzilla et donc, King of Monsters et Godzilla versus Kong.
Ils voilà.
Sont tous plus ou moins pétés quand même, hein, ces films.
Film est réalisé par.
Je les adore tous.
Adam Wingard, qui a réalisé Death Note.
C'était
le film,
de la merde!
Le film.
C'était nul!
Quelque part, est-ce que, et on va faire ça très brièvement, qui s'en tape pas?
M'en tape.
Non, mais.
Après, j'ai l'abonnement UGC Limité, j'irai quand même le voir, je pense.
Je pense aussi parce que ça peut être très funky. Et oui, vu que j'adore funky. Les films de monstres, ça peut être très
funky. Il y a plein d'extraits qui fuient sur internet depuis quelques jours.
C'est vrai que c'est brillant d'avoir mis un bras robot à King Kong et qui chevauche Godzilla. Franchement, le monde en avait besoin.
Oui.
En fait, moi, je trouve que le premier Godzilla, est incroyable. Kong Skull Island. Tellement fun,
ouais,
tellement
bien mis
en scène.
Skull Island, s'ils sont tous à l'école, guys. ça fait hyper plaisir d'être là, l'équipe.
Ouais, Skull Island, moi je trouve ça génial.
Tellement d'idées dans le truc, c'est trop bien.
Génial, non, j'aime bien.
Godzilla 2, il y a de très bonnes choses, même si le côté humain est nul. Après, j'ai pas vu versus Kong, parce que ça m'a gonflé.
C'était très très nul, ça. Et moi, je trouve que Godzilla 2, c'était très très nul aussi.
Ah, Godzilla 2, moi j'aime beaucoup.
Versus Kong.
Gros plaisir coupable.
Ah ouais. Ah, c'est tellement décevant. Moi, je l'attendais de ouf, je suis trop content. Tu mets Godzilla et Kong qui se tapent dans un film, très bien. C'était si mauvais.
Non, c'est pas un beau réel, enfin c'est
2 minutes.
2 minutes, pardon.
Merci. écoutez, je vous propose de passer à l'interlude, mais avant ça, on va dire au revoir à notre bon ami Quentin Leclap. Encore merci d'être venu.
Mais merci,
je te caresse le bras parce que c'est important à mes yeux. Reçois Julie qui tient la chaîne Bacabou. Ok. Comment tu vas, Julie?
Ça va super, et toi?
Ouais, bah ça va. Bah, non, adresse-toi qu'à moi, lui,
c'est
désagréable.
C'est très cool de te recevoir. Et si je dis pas de bêtises, t'as une petite actualité, là. Tu viens de passer du temps sur le montage d'une vidéo que t'as sortie et qui est en tendance. J'ai vu ça sur
Ouais, putain, j'ai de retour en tendance, là, enfin. Il m'avait boudé pendant des mois, là. Je suis contente.
Top des tendances.
Donc t'as sorti une vidéo hier qui s'appelle « Je suis amoureuse ». C'est le nom.
Oui.
Et tu parles de plein de trucs, de ta vie, de tes réflexions, de la musique, de Twitch, et aussi notamment de ton rapport à YouTube.
Voilà, c'est ça.
Et YouTube, c'est de la merde.
Oh non,
non.
Ne soyons pas de mauvaise langue. C'est juste, moi, j'ai été un petit peu aigri de YouTube ces derniers temps, mais it's ok.
Ouais, mais ça arrive, ça.
Explique-nous pourquoi, brièvement.
Pourquoi j'ai été aigri de YouTube? Parce que je pense qu'on y passe tous, en fait, en tant que créateur. Moi, je suis sur Internet depuis 2004.
Ouais.
Et
ah ouais.
J'ai vu l'évolution de YouTube depuis
la création.
Depuis la création. Et c'est plus. Enfin, j'ai presque envie que c'était mieux avant. Tu vois, j'ai presque envie de dire que c'était mieux avant, dans le sens où on a perdu un petit peu le sens du slogan même qui est "Broadcast yourself". Mm-hmm. Donc diffuse-toi. Et alors je dis pas que les deux. Enfin, le fait qu'il y ait des vidéos qui soient produites. Et des vidéos qui soient, on va dire, faites maison, ne peuvent pas cohabiter. Ouais. Mais je remarque quand même que les gens ont plus tendance à se tourner vers les vidéos produites. Et ça me rend un peu triste parce que je suis venue sur YouTube pour fuir la télé.
Ouais.
Ouais. C'est une discussion qu'on avait avec Nicolas assez récemment sur le fait que parfois et YouTube prend de temps en temps cette direction de la télé où
plus
il faut cadrer beaucoup plus les choses.
Là, tu penses notamment au truc de Michou là sur TF1.
Bah notamment par exemple.
Bah t'as aussi quand TF1, M6 ont fait aussi leur chaîne YouTube avec des créateurs Golden Moustache, Studio Bagel. C'est quand même des trucs produits par des télés, des chaînes de télé. Donc je pense que déjà ça a rajouté un truc de production en plus, sachant que ça commençait un petit peu avec tout ce qui était vlog, tout ce qui était sketch. Là ça a rajouté quelque chose en plus et maintenant, enfin tu vois par exemple à Mixem, c'est toujours des super productions avec des décors, des équipes de prod énormes derrière, des trucs super clean. Et en fait c'est vrai que ça fait vraiment ton émission tous les dimanches ou tous les mercredis, je sais pas. Où tout le monde est au rendez-vous et se dit bon bah voilà j'ai ma nouvelle émission, un peu comme quand tu regardais l'émission avec les vachettes, l'émission
Interville
voilà,
on a eu beaucoup trop la ref beaucoup trop tôt.
Mais ouais c'est vrai que beaucoup de créateurs sont en train de se formater. Après nous on dit ça, on est littéralement sur un putain de plateau qui imite la télé.
Moi je trouve que pour prendre en parallèle, toi à un moment tu dis et en même temps on n'a jamais eu autant de trucs à regarder et de créateurs.
Et c'est ça qui me rend triste, c'est que t'as toujours les mêmes profils qui sont mis en avant, toujours les mêmes personnes, et déjà toujours moins de femmes, hein, toujours autant de mecs et pas assez de femmes qui sont mises en avant malheureusement. Oui, bah ça m'a entre guillemets rendu aigri ces derniers temps. Moi, j'ai un peu fait la paix avec moi-même avec ça.
Okay. Moi, je trouve que ça va, même dans ta vidéo, t'es pas si aigri que ça, juste tu pointes du doigt quelques points.
Je me contrôle aussi. Ouais. Hein. Attention à ce que je dis, mais je peux te dire que ces derniers temps, c'était un petit peu un combat d'ego mentalement, parce que je pense que encore une fois on y passe tous en tant que créateur, il y a un putain de combat d'ego ouais. Pardon qui se
ah ben bah Nico dès le matin c'est que de l'ego.
Moi
bonjour comment je vais tout le matin, je suis là waouh gênant.
Mais donc ouais, t'as quand même gardé cet art du vlog, c'est un truc que tu perfectionnes depuis plusieurs années maintenant, tu j'ai l'impression que tu kiffes faire ça. Tu dois avoir des influences du style Casey Neistat.
Bien sûr, enfin c'est quand même la référence, c'est lui qui a on va dire popularisé ce style là.
Ouais.
Enfin, pour moi vraiment le on va dire comment dirais-je, l'instigateur c'était Antoine de Maximi.
Ah bah ouais effectivement d'aller se filmer en voyage et tout.
J'irai dormir chez vous.
C'est un truc que tu regardais?
Oui, c'était trop bien.
Et tu l'as vu le film ou pas?
Non.
Il y a eu un film justement où c'est j'irai dormir. Non, c'était quoi? J'ai plus le nom du film. Mais il a fait une fiction.
J'irai chier chez vous.
Ah, dans les Carpates, j'irai dormir dans les Carpates ou un truc comme ça. L'autre truc aussi que tu fais demain.
Oui.
Demain, tu fais un stream caritatif.
Du vendredi jusqu'au dimanche soir, je suis à Furax au profit de féministes contre le cyberharcèlement.
Ouais.
Donc, y aura Mister MV qui participe, il y a Horty, il y a Nathalie, il y a Afro Gameuse du coup qui organise l'événement aussi et plein d'autres personnes.
Flonflon.
Voilà, Flonflon, notamment Flonflon. Le bon Flonflon qu'on ne cessera de jamais de mettre en avant parce qu'il mérite percer, putain. Ça va être chouette. Je suis déjà fatiguée d'avance.
Ouais. Grosse nuit ce soir, l'histoire d'être... Parce que du coup, c'est 24 heures sur 24.
Ouais.
Et vous relayez...
On ne le fait pas toute la journée. Enfin,
ouais.
Bien sûr. J'ai pas la forme physique, j'ai pas les capacités physiques.
Mais normalement, t'es là tous les jours.
Comme les vrais streamers. Normalement, oui.
Ok, trop bien. Et du coup, c'est sur Twitch et YouTube?
Twitch. Après, je sais pas s'il y en a qui... Peut-être qu'il y en a qui streameront sur YouTube, mais pas... Enfin, principalement sur Twitch, je pense.
Moi, je voulais juste revenir sur un truc, c'est que... je parlais de la forme du vlog que tu fais sur ta chaîne depuis un certain temps, et tu nous as parlé d'un truc que tu comptes faire, d'un format sur lequel t'expérimentes actuellement.
Ouais.
Excuse-moi,
j'ai remis
tout. Tu veux en parler ou pas?
Le format que je veux expérimenter, oui, l'animation.
Ouais, voilà.
J'ai fait de l'animation au tout début de ma chaîne. Putain, c'est moi qui suis stressée alors que. Putain,
mais non, t'es très bien.
C'est une interview.
c'est une interview, on veut tout savoir là ce soir.
Oui, je me remets à l'animation. Maintenant, le problème, c'est que c'est très long parce que j'apprends en même temps les logiciels. Enfin, j'apprends Animate.
Ok.
Ce que j'avais pas prévu, mais j'apprends Animate, j'apprends After Effects et j'apprends aussi le logiciel sur iPad là,
Procreate
mais version animation.
Ok, je savais pas que ça existait.
Dreamweaver, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est long, Parce que déjà, Dream, c'est vraiment pas intuitif. Alors, After Effects.
Ouais, ouais, After.
Bonjour.
After, c'est archi pas intuitif. Ça met des années à master.
Mais même pour les vlogs et tout, c'est intéressant de toucher à du After pour faire du. Faire du motion et tout. Mais oui, je reprends ce concept-là de raconter des anecdotes de vie sans rentrer non plus dans le voyeurisme, parce que moi, c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu ma je cherche le terme, putain, c'est terrible.
La phobie de...
Je cherche des termes. Je cherche des termes depuis tout à l'heure, je les trouve pas.
Ça te met mal à l'aise de partager trop ta vie intime sur Internet.
Alors en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai envie de dire.
Pinocchio.
C'est fou, je trouve pas les termes depuis tout à l'heure, alors que je les ai d'habitude. Mais...
Le temps, en vrai, on est posé, tu prends ton temps pour trouver.
On est désemparé parce que vraiment on t'écoute.
Oui, parce que, vas-y. Le problème du vlog, c'est. Tu dois montrer une partie de ta vie, mais je suis pas pour qu'on montre. Tu vois, montrer par exemple mon couple.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Même. Mes amis, tu vois, ils ont pas forcément envie de paraître devant la caméra, tu vois. Enfin, essayer de raconter des choses sans rentrer dans le voyeurisme.
Pudeur, on dit dans le chat.
Et ce que les gens appellent, authenticité, vraiment, ça c'est la nouvelle mode, c'est d'être authentique sur Internet.
C'est vrai que c'est en train de, c'est très important. J'ai l'impression en ce moment le terme d'authenticité.
C'est ma
hantise.
C'est pas ma hantise. C'est un sujet qui fait mouche chez moi.
Ouais. La bête noire.
Pas ma bête noire non plus. Merde, je trouve pas le terme.
Ton trigger.
En fait, les jeux, ils ont commencé et c'est trouvé quel.
Non, voilà, c'est mon trigger du moment. C'est. Putain, le terme. Enfin, l'authenticité, c'est utilisé à tort et à travers aujourd'hui sur Internet.
Alors que.
Pour vendre notamment.
Ouais, alors que personne n'est authentique, parce qu'en fait, juste t'allumes ta cam et tu fais.
Tu montres ce que tu veux de ta vie, en fait.
Non, alors vraiment, sur TikTok en ce moment, ça fait mouche aussi, parce que oui, il faut être authentique pour percer tout ça. Je consomme énormément de TikTok en ce moment parce que j'ai consommé du YouTube ces derniers temps, tout ça pour le travail. Et vraiment, la traîne du moment, c'est d'être oui, il faut être authentique pour percer, machin. Sauf que putain, non, c'est pas l'authenticité, ça, c'est du voyeurisme en fait, ce que vous nous montrez.
Ouais.
Vous confondez les deux, et c'est pas parce que oui, tu te montres en mode oui, je suis une grosse dégueulasse, je bouffe mes crottes de nez, tout ça. Non, t'es pas authentique, t'es juste une grosse dégueulasse.
C'est vrai, par exemple, le voyeurisme, c'est un truc qui se fait beaucoup sur de la télé-réalité.
Oui.
Quelque chose qui est prédominant, la télé-réalité, c'est du voyeurisme à 100%.
Contre la télé-réalité.
Ouais, complètement.
Alors que justement, c'est pas du tout authentique.
C'est pas du tout authentique. Et t'as plusieurs personnes avec les années qui ont participé à des télé-réalités, et qui expliquaient ce qu'on leur demandait et ce qui était fait pour qu'ils soient aussi à bout et tout ça. Mm. C'était pas authentique. On leur demandait d'être comme ci, d'être comme ça, de participer aussi aux engueulades et tout. Et par contre, effectivement, t'étais filmé. Même en train de baiser, quoi. Et ça, effectivement, c'est du voyeurisme malsain. Chose qui était bien des années avant que la télé-réalité existe. Truman Show le pointait déjà du doigt.
Et donc, Julie, ce que tu comptes faire là avec l'animation, c'est essayer de trouver cette frontière entre authenticité, mais pas tomber dans le voyeurisme.
Voilà, c'est ça, pas tomber dans le piège du voyeurisme.
Ok.
Et oui, parce qu'on a complètement divagué, mais. Oui, ce serait de reprendre du coup ce format-là comme j'avais fait au tout début. C'est ce qui m'avait fait. J'avais percé avant, mais ça a amplifié d'autant plus ma chaîne. De raconter des anecdotes de vie, mais en format animé, tu vois.
Ok. Et tu sais quand est-ce que ça va sortir ou t'as aucune idée là-dessus ?
J'en ai aucune idée. Moi, à la base, d'ailleurs, on va au Frames tous ensemble.
Ouais. C'est vrai.
Dans l'éventualité où j'étais invitée en tant que. En tant que créatrice, à diffuser quelque chose là-bas, j'aurais aimé montrer ça, tu vois, au moins une partie.
Pendant la création, si vous nous entendez, il y a toujours une possibilité.
non, mais après, je peux en parler, je spoil direct, hein, c'est un Draw My Life.
Ok.
Enfin, c'est des Draw My Life en plusieurs parties. C'est parler notamment de dépression, du deuil, même de l'amour, tu vois. Enfin, je l'ai fait en vlog, mais. Parce que oui, le vlog, il a un sous-texte. Je le dis comme ça, mais. C'est pas que oh regarde j'aime YouTube hein, mon amour pour moi-même ou je sais pas quoi tu vois non c'est il y a un petit sous-texte quand même j'espère que les gens l'ont compris mais voilà
ok en tout cas trop hâte de voir tout ça et trop hâte de suivre la suite de tes projets la suite de tes vlogs et potentiellement toutes tes histoires en animation on passe au jeu
ça y est
moi j'aime bien les petits jeux
on va faire les jeux t'as raison alors j'ai essayé de faire des jeux qu'on n'a pas trop fait dans la saison précédente.
Ouais.
Sauf un.
Il y en a un, mais bon. Alors, premier jeu, je vais vous faire le jeu de la tagline. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est une tagline ?
Tagline ?
Une tagline, c'est sur une jaquette de film, sur une affiche de film, tu sais, il y a une phrase en dessous, un peu vendeuse sur le film.
Genre, par exemple, sur l'affiche de Robocop, il y a écrit 50% flic, 50%... Non, c'est pas ça, putain, je l'ai foiré. 50% humain, 50% robot.
Machine. 100% flic. Ça, c'est ce qu'on appelle une tagline. Et il faut savoir que bon nombre de films, parce que j'ai fait mes recherches, ont des taglines
pourries,
toutes nulles,
oui,
mais vraiment des trucs claqués. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont même graves.
Ouais, dans les taglines. Les films d'animation, c'est scandaleux.
Mais moi,
dans ce que je vous ai fait ce soir, vous allez très vite comprendre qu'il y en a qui sont vraiment scandaleux, mais très drôles, mais scandaleux. Donc, je vais vous proposer 4 taglines différentes pour un film. Il y en a 3 fausses et une bonne, et c'est à vous de trouver laquelle est la bonne.
Ok.
Okay. Okay.
On a les affiches et tout.
On a les affiches ou pas, Solane?
Je sais plus. Il dort.
Au pire, on aura les affiches à la fin. Je pense qu'on a les affiches à la fin. Alors, film. Premier film, c'est le film Babysitter avec Vin Diesel. le nom.
Ah oui, je vois ce que c'est.
Ouais. Alors, est-ce que c'est pour cette mission, son autre code sera Chuck Norris? Est-ce que c'est cette fois-ci, il fait vraiment face à une mission impossible? Est-ce que c'est l'expression se faire des cheveux n'a jamais pris autant de sens? Ou pas besoin de flingue quand on a des biberons?
Ça peut pas être la B. Parce que moi, je dirais, tu peux pas mentionner une autre licence sur un truc.
Non, mais mission impossible, ça peut être une licence, mais ça peut aussi être un mot.
Ouais, c'est vrai.
Toi, tu dirais.
Moi, je dirais la D.
Pas besoin de flingue quand on a des biberons.
Moi, je dis entre la B et la D. Je pense pas que ce soit la A ou la C.
Non.
Mais c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis. C'est un peu bizarre d'utiliser le nom dans notre film.
Bah, parce qu'en fait, inconsciemment, tu penses directement à la licence, tu vois.
Ouais.
Mission impossible.
Pour moi, la C, elle est.
Je pense que t'as raison. Je vais prendre la.
Oh.
Sans mauvais jeu de mots, elle est un peu de 4 kilos tractée.
Je pense que je vais. Moi, je prends la D.
Ouais, je pense moi aussi.
On est tous d'accord.
Mais j'aime bien.
Oui.
J'aime bien la A quand même.
Ouais, elle est incroyable.
J'aime bien. Mais.
Et ben, vous avez tous tort parce qu'effectivement, c'est la A. Pour cette mission, son nom de code sera Chuck Norris.
J'aurais dû me faire confiance.
C'est vrai que ça, c'est du génie.
Mais ça date de quand déjà?
Le. Oh là!
2004. Je suis sûr que c'est 2004.
Ça, ouais.
C'est dans cette vibe-là, hein, c'est clair.
2007, 2004.
Ouais, non, vibe. C'est. Attends, je vais te retrouver ça très vite grâce à Letterboxd.
Est-ce qu'on a la. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas l'affiche du coup, Angie.
On l'a pas? Soso, t'as l'affiche ou pas? Yes!
C'est vrai qu'on peut pas communiquer en fait.
Non, il nous faudrait un retour.
Des oreillettes.
Ouais, il nous faudrait des oreillettes, mais on a vraiment pas d'argent pour 2003,
apparemment.
Payer des taxis. Donc
ce B pour qu'il paye des oreillettes. 2003
2003, ouais.
Ah, tu vois, t'étais pas loin.
Ok, génial.
Le prochain film, c'est King Kong 2.
Oula.
Oui, il y a eu.
Il a fait un four de ouf.
Est-ce que c'est 1, la vengeance est un plat qui se mange avec des poils? 2, non, il n'était pas si mort que ça. 3, il revient, il est pas content. Ou 4, que quelqu'un lui donne une banane.
Oh, okay,
oh.
Moi, je pense
3 direct. Moi, je me suis fait spoiler, je l'ai vu, mais c'est vrai que c'est ouf.
Je dirais la C, ouais. Attends.
Il revient, il est pas content.
Attends, je suis plus sûre parce qu'il a donné un indice.
Non, mais en vrai, elles sont toutes un peu ouf, quoi. Chacune dans leur
sujet. Franchement, il revient, il est pas content, ça me paraîtrait la plus logique parce que se manger avec des poils, c'est quand même un peu chelou. Pas très vendeur. Pas si mort que ça. Non, pas assez vendeur non plus. Non, mais ça pourrait passer. Donnez-lui une banane. Ça donne le ton, le C au moins.
Il y a moyen que ce soit un peu une comédie dans le King Kong 2, donc donnez-lui une banane, ça passerait.
Allez, tu sais quoi, moi je vais dire la B.
La B?
Ouais.
Il est pas si mort que
moi,
ça.
Je dis la C, moi.
Et toi, c'est il revient, il est pas content. Et Julie, t'as raison, c'est il revient, il est pas content.
Allez! Mais là, mais.
C'est vraiment très drôle. C'est vraiment, ça fait vraiment
trop
de
délire. Elle est trop borderline. La DEL était trop borderline.
Ouais.
C'était un gorille. Alors attention, je vous préviens, la prochaine, elle est vénère. Hein. C'est sur le film Big Mama de père en fils. Alors, la tagline. La tagline est horrible. Et la tagline est horrible et grossophobe. J'ai essayé de coller au truc pour disperser, mais. Voilà.
Elles sont toutes grossophobes. Voilà.
Alors, est-ce que la tagline du film Big Mama, c'est ça va être lourd?
Oh putain.
Est-ce que c'est 50% agent, 50% drôle, 100% gras? Est-ce que c'est fat, entrée l'accusé? où non, non. la Lady Gragra du FBI est de retour.
Je suis sûr que c'est la dernière.
Non, c'est la A.
Ça va être lourd.
Ouais. Lady Gragra, c'est trop récent. Ouais.
La Lady Gragra du FBI est de retour. Alors que
vraiment, Lady Gragra, c'est vieux.
Bah, je sais pas, parce que tu t'as dit, c'est la combienième suite de Big Mama, ça ?
C'est, non, c'est la deuxième, je crois. Okay.
Ah non, c'est trop vieux.
Fat
Lady Gaga, c'est 2010, 2008.
C'est quoi la B ?
La B, pardon.
C'est Robocop, mais version...
Non, ouais, c'est 50% agent, 50% drôle, 100% gras.
Non, moi, je tire la A.
Ouais, moi, je dis la A.
Ah, là,
elle est bien, elle est bien.
Non, c'est la Lady Gragra du FBI de retour.
Non, non,
tu te
fous de moi.
Je te jure que c'est vrai.
C'est quelle année ?
Ils ont osé.
Moi, je dis 2009. Je devine les années.
Mais t'as raison. Attends, Big Mama... Ah, Big Mama...
Je regarde pas les réponses. Hein.
Like Father... 2011, Like Father, Like Son. Et oui, c'est le deuxième ou le troisième.
2011
ouais. Ah, ben ils ont cartonné sur la licence.
Waouh. Putain, pour moi, c'était plus
Ils se sont fait plaisir.
C'est le meilleur de la franchise, hein, celui-ci.
Bah écoute, vu la tagline, ça a l'air...
Que le 4, hein, comme Matrix.
Personne n'est tombé dans le piège, fat entrer l'accusé. Moi, c'était mon...
c'est trop français.
Mais non, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Ils peuvent utiliser des refs franco-françaises comme ça sur les affiches de distribution française. C'est grave possible.
Ouais, mais question de droit. Pas sûr.
Ah, mais si, c'est pas... Vu que c'est une parodie.
C'est pas exactement le même truc. Je pense que t'as un...
Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout.
Le prochain film, c'est Invasion USA.
Avec Chuck Norris.
Avec Chuck Norris.
J'adore ce film.
Alors,
81. Alors, il y a une scène incroyable dans ce film où, en gros, c'est le pitch du film, c'est des Russes.
85.
Les Russes qui envahissent les États-Unis, tout bêtement. Vraiment, ils arrivent avec des flingues, ils envahissent les États-Unis. Et t'as une scène incroyable où,
je vous montre l'affiche.
Oh,
sur YouTube, on verra la fiche.
Ça peut faire un très beau t-shirt.
Ouais, mais non. attends de voir la tagline.
Et donc, t'as une scène dans Invasion USA qui est formidable où le film s'arrête. Les conneries de Chuck Norris, ça s'arrête. Et là, tu vois la vie d'une petite famille qui fête Noël. Vraiment, c'est la veille de Noël et ils mettent la petite étoile en haut du sapin. Et t'as le fils qui fait merci papa et tout. C'est trop mignon. Et là, t'as une voiture qui se gare devant la maison. Il y a un Russe qui sort avec un bazooka et qui explose la maison. C'est trop bien. Mater cette scène sur YouTube, c'est trop drôle.
Mais alors, quelle est la tagline de Invasion USA ? Est-ce que c'est certains sont américains, lui et l'Amérique. Oh. Est-ce que c'est l'Amérique, je la veux et je l'aurai? Est-ce que c'est l'Amérique a peur, pas lui? Ou l'Amérique n'était pas prête, lui, si?
Putain, c'est chaud. La D, elle est bien.
La C ou la D?
La D, elle est bien. Je dis la A.
Moi, en fait, la A aussi, elle marche.
Ouais. Marche très bien, hein.
L'Amérique n'était pas...
Ouais, la D, moi je dirais la D.
La D, ça colle bien au pitch du film.
L'Amérique n'était pas prête, lui, si.
Ouais.
Et vous avez raison vous, c'est bien celui-là.
Oh putain, j'ai perdu sur tout.
Ah, évidemment.
Dans le chat, il l'avait, hein, dans le chat.
La D.
Bravo. Et vous n'êtes pas tombé dans le piège, l'Amérique, je la veux, je l'aurai. Et
ça, oui.
Non, celui-ci...
Trop simple. Le prochain film, c'est Assassin Ninja, un film complètement méconnu. Me demande pas la date.
Elle était prête, elle l'avait sur le bout de la langue.
Mais est-ce que la tagline, c'est « Plus ninja que ça, tu meurs. Si tu l'as vu, t'es mort. Moitié assassin, moitié ninja. Que demander de plus ?»
C'est celle-là.
Ou « Pas besoin d'y aller avec sa bite et son couteau quand on a un nunchaku.
Non, elle est trop borderline.
Attends, c'est quoi les deux premières? Plus ninja que ça, tu meurs.
Alors, faut savoir qu'on est sur du nana, donc le borderline.
Ouais. Si tu l'as vu, t'es mort, pourquoi pas?
Putain, c'est chaud. Oh. Totalement. Attends, moitié assassin, moitié ninja.
Alors, c'est moitié assassin, moitié ninja. Que demander de plus?
Ah,
oui. Ça n'a aucun sens.
Oh, je sais pas, moi je dirais la A.
La A, plus ninja que ça, tu meurs.
Moi, je dis la B.
Tu dis la B, si tu l'as vu, bim, t'es mort.
Bim, t'es mort.
Non, le bim, je l'ai rajouté.
Allez, là,
c'est... Et moitié assassin, moitié ninja. Eh ben, c'est la A, plus ninja que ça, tu meurs.
Bravo.
T'es doué sur ce jeu-là.
Du hasard, là.
Attention, le dernier, Delta Force, avec, je vous le donne dans le mille.
Chuck Norris.
Parce qu'il en a fait des sacrés films, ce Chuck.
Je l'ai en Blu-ray aussi. Je l'ai pas vu.
Est-ce que la tagline de Delta Force est... Quand il n'y a plus de solution, ils sont la solution.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ils combattent la haine par passion pour la vie. C'est quand même plus sympa de tabasser du terroriste quand on est plusieurs. Ou un mardi comme un autre pour Chuck Norris.
Oh, la D.
C'est la première, c'est la première.
En vrai, la première marche de fou.
La première, c'est quand il n'y a plus de solution, ils sont la solution.
La A,
elle est quand même vachement bien.
Après, ça me ferait beaucoup de A d'un coup, là.
La A, elle est vachement bien, mais je sais pas, j'aime bien la D. De toute façon, depuis le début, je dis toutes les mauvaises réponses.
La A, c'est typiquement le genre de tagline de ces films-là.
La A, ouais.
La A. Eh ben non, c'était la B, et c'était ils combattent la haine par passion pour la vie.
C'est vraiment la pire de toutes. C'est la plus nulle.
Ah oui,
Surprenant.
Oui, mais bon, que veux-tu, c'est Chuck Norris. Et Chuck Norris, il fait vendre quand même, surtout à 4h du matin sur la 17. C'est vrai, hein, vraiment, ils ont tout le catalogue. Alors,
le reste de tagline, nous, c'est fini.
Non, écoute, va inventer quoi.
Il en a déjà marre.
T'avais une petite roco de fin.
Ah, moi, j'ai une recommandation à vous faire comme animation. Enfin, série d'animation sur Netflix.
Okay.
C'est Blue Eye de Samouraï. C'est une série d'animation qui a été créée aux États-Unis et ça parle d'un samouraï aux yeux bleus qui cherche à se venger pendant l'ère d'Edo, donc juste après la fermeture des frontières du Japon. Et je vais pas spoiler parce que il y a beaucoup de détails quand même qui vous allez découvrir au fur et à mesure. Okay. Non, vraiment, c'est hyper bien animé. C'est très adulte par contre.
Hein. Okay.
Ouais, tout de suite, il y a du cul, il y a du sang, du cul. Enfin, c'est assez gore.
C'est tout ce qu'on aime.
Non, ça te tient en haleine tout le long. Je trouve que le développement des personnages est vraiment assez bien, bien travaillé. Les dessins sont quand même. C'est un mélange de 2D, 3D aussi qui est vachement bien. Ça fait vachement penser à Arcane, j'allais dire.
Ouais, on dirait aussi certains épisodes de Love, Death and Robot.
Ouais. Oui. Oui. Mais je crois que c'est fait par le même studio. Hein.
Ah, c'est joli.
Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre, je dis peut-être une connerie, mais vraiment regardez parce que normalement il y a une saison 2 aussi qui va arriver peut-être fin d'année.
Ok.
C'est sorti quand
C'est tout récent.
Ouais, okay. C'est sorti il y a quelques mois.
C'est tout récent. Automne dernier.
Non, mais je l'ai vu plusieurs fois sur Netflix en effet.
Et vraiment belle surprise, ça m'a tenu en haleine tout le long. Au début j'étais un peu mimolette, je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup de parce que voilà c'est Netflix aussi. J'ai quelques appréhensions avec les séries Netflix.
Ouais.
Mais vraiment, pour le coup, là, c'était vraiment une très très belle surprise et c'est très attachant. Non seulement c'est très attachant, c'est sombre.
Ouais.
Mais il y a une pointe d'humour l'humour qui est parfaitement dosé aussi. Voilà, vraiment,
ce qui est déjà un point positif.
Après, si vous aimez bien aussi tout ce qui touche au Japon, vraiment le folklore japonais, ça pourrait vous plaire. Et c'est très étonnant que ce soit fait par un studio américain parce que c'est clairement une critique de la colonisation.
Ok, d'accord.
Voilà, en sous-texte, c'est une bonne critique de la colonisation. Donc, c'était. Voilà, je
t'ai dit. Attendez, peut-être qu'on conscience de leur passé. Hein.
Non, mais peut-être. Oui, mais pour les États-Unis, tu vois.
C'est vrai.
C'est vrai que c'est assez étonnant quand même.
Ok, trop cool. Donc, une série d'animation Netflix.
Oui.
C'est la fin de l'émission.
C'est la fin de l'émission. On a été trop contents de faire ça avec vous.
Merci.
C'est le retour de Caméflex.
Merci Ophélie d'avoir été là pour ta chronique et pour la deuxième partie d'émission.
Merci de l'invitation.
Merci. Bah, tu reviendras.
Merci. Avec plaisir.
Merci Julie d'être venue nous honorer de ta présence.
Merci.
Nous parler de...
Mais putain, je suis désolée, j'étais stressée aujourd'hui.
Mais non,
on s'est pas
vu. T'es super.
T'es très bien.
Et puis de toute façon, on se retrouve aux Frames du coup.
Oui.
Ouais. Je dis Frames.
Frames.
De toute façon, sur Caméflex, on fera peut-être des trucs, des petits posts, des petits vlogs, des petits vlogs. Oui,
on verra bien. De toute façon, la semaine prochaine, jeudi prochain, à 19h30, on se retrouve avec deux nouveaux chroniqueurs. Ce sera plus vous cette fois.
Mais vous allez revenir plus tard.
Deux nouveaux chroniqueurs, des nouvelles chroniques, une nouvelle invitée, encore une fois. On peut spoiler ça. Vous le saurez. Allez suivre Caméflex sur tous nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram, merci.
Twitter, Insta.
Le passif de...
Pas le passif, l'actif.
Et puis vous pouvez aller suivre Julie, Ophélie. Julie s'appelle comment sur Insta et...
Bacabou underscore, voilà.
Moi, il y a Mizna, moi, dans mon nom. C'est chiant, mais je vous enverrai les trucs.
Ouais, toi, tu reprends le stream, là?
Ouais, je compte reprendre le stream. Je finis de travailler sur ma DA et je pense j'aimerais viser un... hein, peut-être mai, juin.
Ok.
Pour reprendre tranquillement. Voilà.
Ok, trop cool. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été nombreux. J'espère que toute cette formule vous plaît. Nous, on est toujours en train de trouver, de chercher nos marques et de trouver.
Dites-nous s'il y a des trucs que vous avez kiffé, d'autres moins. On va voir comment l'émission évolue.
Des bisous à tous.
Ciao.
Je voulais faire un dab.